Dans le tempo, c'est enfin l'épisode 19 et on est parti. Bienvenue dans DLT, le podcast qui parle de la musique d'aujourd'hui sous tous ses aspects. Comme d'habitude, évidemment, je suis avec mon gars Michel, aka Chronomusique, qui est absolument mort de fatigue. Mais est-ce que tu survis quand même? Ça va, Michel? C'est pas trop dur?
Ça va, on est à deux doigts de craquer comme le tibia de Cissé. On est là.
Est-ce que le burn-out est proche? Tu le sens? Tu le sens venir?
Ah, le burn-out a été dépassé. Allez. Et on replonge dedans très bientôt.
Très bien. Oui, d'ailleurs, on s'excuse un peu auprès de, voilà, des auditeurs réguliers en particulier. On a un rythme de publication assez erratique en ce moment. Bon, déjà, voilà, il y a Michel qui a beaucoup d'activités. Vous l'avez peut-être vu sur les internets. C'est une resta maintenant. C'est terrible, Michel. Et puis, donc, voilà, il est très pris. Et puis aussi, vous savez...
C'est l'enfer.
C'est l'enfer, mais écoute, on va traverser tout ça, Michel. On va traverser tout ça. Mais c'est pour le meilleur. Et puis, on cherche aussi un lieu d'enregistrement, vous le savez. On a visité plein de trucs et tout. C'est en très bonne voie. Ça devrait bientôt se faire, peut-être même pour les prochains épisodes. En tout cas, voilà, ça va permettre à l'émission de s'améliorer. On va revenir vraiment sur le rythme tous les 15 jours, normalement. Promis, ce sera pour très, très vite. Très bientôt, Michel, très bientôt. Et en attendant, on va discuter aujourd'hui de la presse musicale. Alors, on a choisi ce thème parce que c'est jamais anodin, en fait, le traitement médiatique de phénomènes culturels. Ça révèle un peu comment on considère un mouvement, un genre musical, quelle place il a dans notre société, qui en parle, comment, etc. Et puis, en plus, ça a connu de grands bouleversements, la presse musicale, avec évidemment Internet, on en discutera. Bref, c'est un sujet vraiment passionnant. Et pour en parler, on reçoit le grand Samuel Degan. Il faut dire d'ailleurs Degan.
Degan, il
faut. Degan, c'est bien.
Bon. Mais bon, tout le monde m'appelle Sam.
C'est vrai. Et bah Sam, ouais, comment ouais. Ça va, Sam?
Ça va.
Merci de nous rejoindre, Michel. Ouais. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Sam, est-ce que tu peux nous résumer un peu ses activités? Qu'est-ce qu'il fait? Qui est Sam?
Ah bien sûr, Sam. Qui es-tu? Point d'interrogation. Tu es journaliste musical depuis une quinzaine d'années. T'as notamment travaillé pour Rue 89, M6, Le Move, Les Un Rock ou encore Gonzaï. Aujourd'hui, tu collabores avec le magazine Rolling Stone et la radio WeFM. Tu interviens notamment dans la matinale. En parallèle, tu t'occupes de conférences de presse d'artistes pour différents festivals et en particulier les Vieilles Charrues ou Rock en Seine. T'as co-écrit des livres, des biographies sur No One is Innocent, Aldebert, Les Ogres de Barbac. Et enfin, tu es l'homme derrière l'excellente chaîne YouTube Une Chanson, l'Addition. Où depuis 4 ans, tu décrypes sur cette chaîne les grands standards du rock et du métal. Bref, tu es un journaliste complet, un homme complet et plutôt beau gosse.
On peut le dire.
Avec de l'expérience,
hein.
On peut le dire, et une grande connaissance, notamment du rock. C'est ça ton background principal, tu dirais, le rock?
Oui, alors après, je suis journaliste musical, mais effectivement, si on doit tracer une majorité, oui, je viens du rock en tout cas. Mais c'est pas que ma simple activité. Hein. La musique, c'est surtout un prétexte pour élaborer généralement les thématiques de société ou les choses comme ça.
Oh, tu vas bien t'entendre avec Salman.
C'est ça.
Est-ce que tu valides l'adjectif BG? Ça te convient? Non, il faut savoir que c'est un critère
taillée.
De quoi, Michel?
La petite barbe est taillée, coiffée, décoiffée.
C'est un critère important pour être reçu dans DLT.
Ah oui.
Non, c'est déconné, évidemment.
Pas de moche chez nous, hein.
D'ailleurs, un jour, je pense qu'on fera un classement tier liste des plus BG.
Ah ouais, je suis
reçu,
chaud,
tu vois, comme invité.
Oui.
Histoire vraiment de se mettre mal et de faire n'importe quoi.
Oui, voilà.
Bref, c'est marrant parce que c'est cette barbe que j'ai depuis mes 5 ans. non, m'a posé parfois souci justement à mon travail.
C'est vrai.
C'était négligé il y a quelques années avant que ça n'en devienne la mode.
Quel revirement de situation.
Ah oui. Oh, est-ce que c'est un précurseur finalement?
Non, on peut le dire.
Quand même, non.
On peut le dire. Pionnier de la barbe, Samuel Degan. Bon les gars, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Sam, tu es un homme de médias, on l'a dit. Le journalisme est ton métier, mais on peut même dire que c'est une passion. Tu t'intéresses au journalisme en tant que tel. Et d'ailleurs, tu parles pas que de musique dans ton métier. Parfois, tu traites d'autres sujets, et notamment de sujets de société, tu as raison. Mais j'aimerais quand même qu'on se concentre vraiment sur le journalisme musical aujourd'hui. Et notamment, dans une première partie, s'interroger. J'ai presque l'impression que c'est une culture à part, le journalisme musical. Qu'il y a une vraie culture autour de cet exercice, entre guillemets. Et première question, peut-être d'un point de vue un peu historique. Tu me dis si c'est des conneries, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un essor de la presse musicale autour de la pop et du rock à partir des années 60, en fait. Est-ce que vraiment, effectivement, c'est un tournant dans la façon dont on parle de la musique, comment c'est présent dans les médias et comment le journalisme, notamment, s'empare de la question musicale?
Oui, 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 parce qu'il y a plusieurs choses. Le métier n'est pas encore structuré hein, dans les années 60. Les années 60, c'est évidemment un des journaux pour lesquels je travaille, c'est Rolling Stone. Rolling Stone, dans les années 60, c'est un mythe. Mais surtout, il n'y a pas beaucoup de journalistes à l'origine à Rolling Stone. Il y a des gens qui tiennent des fanzines, qui tenaient des journaux de fac, d'université, des futurs écrivains. C'est le pays des nerds avant que l'informatique n'existe. C'est le pays des geeks. Et cette presse va se structurer rapidement parce que on trouve assez difficilement des informations sur les groupes finalement. Hein. On a les vinyles, on essaie de deviner ce qu'il y a des vinyles, mais il n'existe pas encore la toute puissance d'Internet ou de nombreux livres sur le sujet. Donc il va y avoir eh bien un appétit ou un besoin en tout cas de savoir ce qui se cache derrière ces pochettes-là. Après, pour revenir à ton introduction, oui, le journalisme est un petit peu à part déjà, et ça peut être une grande difficulté d'ailleurs. Tu disais, bah, effectivement, moi, je m'intéresse beaucoup à l'exercice aussi, et très souvent dans les colloques entre journalistes, on se prévient, on doit avoir aussi ça en tête que un journaliste surconsomme et donc de fait, eh bien, peut avoir un critère d'exigence qui va commencer à être de plus en plus élevé et qui ne correspond plus forcément parfois au public. Donc, il faut avoir ça en conscience et au contraire, continuer à faire de la pédagogie et ne pas passer par cette pédance dont parfois on en commun certains confrères. Heureusement pas une majorité.
Ouais. C'est intéressant que tu parles de surconsommation dans le cas du journaliste parce que est-ce que justement ce tournant quand même pour la presse musicale, presque la naissance en tout cas de la presse musicale moderne avec les années 60, la pop culture, etc., ça correspond aussi au fait que simplement la jeunesse devient une cible, ça devient un consommateur, ce qui était moins le cas auparavant, et que peut-être aussi que la critique musicale accompagne ce mouvement de marchandisation un peu entre guillemets de la musique, et notamment de la jeunesse.
Oui, mais ça se fait à l'inverse. En fait, ouais. Le rock est déjà une musique populaire. C'est déjà l'expression à l'époque de ce que pensent les jeunes. Et c'est surtout une musique à travers laquelle les jeunes vont se définir. Voilà. On était mods ou on était, Redskin après, enfin voilà, les genres, on était heavy ou metal ou la scène reggae, voilà, les gens adoptaient entièrement les codes d'une scène et c'était d'ailleurs parfois même plus important d'être de telle ou telle communauté plus que même l'écoute en elle-même. Donc c'est vraiment lié à la société, mais c'est parce que l'expression même, la colère, le dépit ou l'amour ressenti par ces communautés et en fait se traduisant en musique. Donc voilà, c'est tout un système de domino en fait qui va s'effectuer.
Parce que dans un premier temps, tu penses qu'il y a pas aussi une logique économique qui naît de tout ça? C'est d'abord avant tout parce que il y a pas de contenu sur ces passions nouvelles entre guillemets, sur toute cette culture qui émerge et que donc les gens s'en emparent eux-mêmes, les jeunes, les fanzines, etc., les fans en fait s'en emparent et donc en parlent. Et ça vient plus tard ou dès le début on a quand même cette idée aussi que ça peut intéresser un public plus important, et puis il y a même une manne financière potentielle en s'adressant aux jeunes, en parlant de musique, en parlant de rock.
Je pense que ça vient plus tard. Regardez la création Woodstock. Son Woodstock, c'est quand même un type qui prête son chant, et puis au fur et à mesure, ça devait devenir un espèce de monstre absolument improbable qui échappe à tout le monde, qui échappe aux programmateurs, qui échappe même aux artistes, etc. C'est de ce succès en fait de Woodstock, du succès sur l'île de Skye, enfin le festival de White, etc., qu'il va y avoir effectivement des gens qui vont se dire il y a peut-être moyen de faire de l'argent. Mais à la base, c'est vraiment un élan du cœur, un élan de la foule. La musique va servir de moyen, de vecteur pour pouvoir lutter contre la musique accordéon, etc. Par exemple, en France, des parents va servir à lutter contre la guerre du Vietnam, ou en tout cas essayer de s'en affranchir. Voilà. Mmh. Ensuite seulement, il y a effectivement une dérive, mais regardez, c'est la même chose à la radio. La radio, il y a d'abord eu des espèces de monolithes qui appartenait à l'État, une information qui était contrôlée par l'État, et puis tout d'un coup, il y a eu ce mouvement radio libre avec des élans de créativité incroyables avant que ben ça redevienne, on essaye de le vendre, de le rendre capitaliste, de et oui mais tout courant malheureusement fini comme ça. Hein.
Il y a ce film incroyable The Boat That Rocks, je pense qu'il s'appelle Good Morning England en VF.
Ouais.
Il est trop chaud ce film et ça parle justement de ce truc là de c'est là en fait c'est à la fois la lutte du rock contre le rock et la pop on va dire tu vois contre les bourgeois en costard qui écoutent de la musique classique et qui ont un balai dans le cul et en même temps ce truc de l'establishment des radios et les radios pirates où ils se permettent de dire des gros mots, ils disent le F-word et c'est une dinguerie et ce genre de truc. Le ton du film est incroyable.
Et bien la preuve d'ailleurs dans ce film que c'est même plus un état d'esprit et qu'il y a quand même des gens qui sont capables de risquer de se faire arrêter pour passer des disques. C'est quand même...
ah oui, oui.
Et puis des disques qui aujourd'hui nous semblent plus du tout fous. Mais c'est...
ah oui, non, non.
Voilà.
C'est vraiment ouais, une question de philosophie, de... c'est idéologique presque à ce moment-là.
Et de lutte contre la monarchie, et de lutte contre l'establishment anglais, etc. Non, non, c'est...
T'es en train de dire vraiment... que c'est politique?
Cette musique, mais aussi beaucoup d'autres courants musicaux, hein, sont souvent liés à des mouvements sociaux.
Michel, toi, c'est un truc, justement, globalement, la presse, alors soit à la lire, soit à t'intéresser, soit même des figures, t'es des gens qui ont parlé de musique, c'est un truc auquel tu t'es un peu intéressé dans, ta, dans ton parcours musical, tu t'es dit, t'as essayé de lire des bouquins sur, sur un genre, j'en sais rien, où il y a des gens qui t'ont marqué, tu vois, pas seulement écouter les
ouais,
disques, tu
bah,
vois.
Moi j'ai beaucoup lu Picsou Magazine, et après, j'ai switché sur Rap R&B Magazine, et Rap Mag. Et là, ben, en fait, je le lisais surtout pour les interviews, mais du coup, tu sais, à l'époque, t'achètes un magazine, tu le ponces, tu vois ce que je veux dire? Moi, tu lis toutes les pages et tout, t'en as, il est là, c'était des mensuels et tout, tu vois. Donc, après, t'as les critiques de CD, t'as les trucs de, à l'époque, c'était la grande, c'était l'apogée du G-Unit, tu vois. Mm-hmm. Donc, t'avais toutes les news concernant le G-Unit, qui rentre, qui sort, qui est en prison, machin. Et en fait, à l'époque, quand j'étais petit, je me rendais pas compte que c'était des gens qui écrivaient, tu vois. Moi, je lisais ce truc, j'avais 11, 12 ans, je me disais, bah, c'est la réalité, tu vois. Ce qu'ils disent dans ce truc, c'est, bah, j'ai affaire à des faits, tu vois. Et ça, c'était, avec le recul, je me dis, c'est intéressant de l'avoir perçu comme ça quand même, tu vois. T'es là, tu lis ton truc et tu dis, waouh. C'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle, alors que bah, y avait beaucoup de critiques subjectives aussi, machin. Et un truc qui me manque un peu, moi, c'est les mixtapes qu'il y avait avec, tu vois. Les CD gratos où t'entendais des artistes. Genre, en vrai, il y a des morceaux, je pense à un morceau Gangsta Rap au Champagne de Monseigneur Mike, tu vois, que moi, j'ai découvert sur une compile.
Je connais pas.
Tu vois, que là, aujourd'hui, si j'en parle, en vrai, il y a que les gens qui ont acheté Rap Mag ou à cette époque-là, qui vont savoir de quoi je parle, alors que c'est un morceau qui m'a matrixé, tu vois ce que je veux dire, quand j'étais gamin.
Mais d'où le fait que ça soit devenu mythique aussi. C'est pour ça que ça devient culte. C'est aussi la rareté, c'est aussi cette apicius, c'est ce petit trésor qu'on a en nous et que parfois on n'aime pas forcément partager d'ailleurs. Hein. On est
ouais,
content
voilà,
de
ça,
conserver
ouais.
que pour nous.
Hein. Ouais. Qu'est-ce que je suis stylé, je connais des trucs que personne connaît.
on parlera justement un peu de... Dans cette première partie, là, j'essaie un peu d'avoir une perspective historique, entre guillemets, découler petit à petit. Et on en arrivera au rap, parce qu'effectivement, il y a eu une culture du fanzine aussi, une culture du magazine, avec l'arrivée du hip-hop, etc. Mais peut-être pour revenir juste un petit peu en arrière, je suis tombé sur Mishka Assayas, donc journaliste assez connu, influent dans la sphère notamment rock, pop, etc. Et qui est particulièrement connu pour son fameux dictionnaire du rock. Si vous connaissez pas, ça vaut le coup de se pencher sur le dictionnaire du rock. Mmh. Et il considère qu'il y a carrément un style d'écriture qui est né avec le journalisme musical, que la critique rock, il y a un peu, voilà, alors nous on connaît, il y a des grandes figures médiatiques en France, hein, des Manœuvres, des Aigus, des Eudeline, alors je sais pas si c'est les meilleurs exemples pour notamment le style d'écriture, etc. Mais en tout cas, ou même, je sais pas, les Un Rock ou Rock'n'Folk, ça a beaucoup marqué aussi. Est-ce que c'est presque, tu vois, ça parle de musique, mais est-ce que c'est pas devenu une forme de phénomène culturel en dehors de la musique, tu sais, une espèce de communauté et qui a développé un savoir-faire, un regard rock entre guillemets, qui découle d'une musique, mais qui allait bien au-delà en fait et qui est passé par la presse.
Bien sûr, mais c'est comme le cinéma. En fait, la musique est pas plus différente. Vous allez avoir le même thème, qu'il soit traité par Ridley Scott ou Paul Verhoeven ou David Lynch, Yvette. d'une façon différente. Et il peut y avoir une frustration parfois chez certains journalistes, en fait, une frustration de l'auteur non accompli. Et à force aussi de traiter toujours la même matière ou au contour, en tout cas, y ressemblant, ben, il y a une tentation d'écrire ça différemment ou en tout cas de restituer une espèce de fièvre, voilà, à laquelle on a assisté et rendre le récit un peu plus palpable, un peu plus vivant, parce qu'il n'y a rien de plus plat que transcrire un concert sur papier. Donc, il faut trouver les méthodes, effectivement, pour le restituer. Encore que, ce que j'adore chez Mishka, moi, j'adore ce type, c'est sa profonde honnêteté. Voilà un type assez sage, qui est profondément honnête et qui, dans tous ses écrits, toutes ses émissions de radio, avoue, ce qui je trouve est assez rare, et je trouve que c'est son exemple qu'on devrait suivre, avoue que, eh bien, il y a quelques années, ce groupe-là, il ne l'aimait pas, il ne le comprenait pas, qu'aujourd'hui, oui, ou inversement, ou qu'il a découvert seulement que depuis 6 mois, tel ou tel artiste. Eh bien, ça, je trouve que cette honnêteté, elle fait du bien, et c'est ce qui parfois manque à la presse de manière générale, voilà. Avoir ce lien un petit peu plus intime, un peu plus honnête, un peu plus authentique, et c'est quelque chose qui réussit magnifiquement bien.
C'est un truc qui me fait penser au chroniqueur sale qu'on a sur YouTube actuellement, tu vois, genre dans ce game-là, dans le truc de la critique moderne sur Internet et dans le milieu du rap. Le chroniqueur sale, c'est un type qui a un peu cet effet-là aussi, sur moi en tout cas, tu vois. C'est ce côté vraiment... Authentique, il dit vraiment juste ce qu'il pense et en fait il prétend pas autre chose, quoi. Juste il le fait.
Alors, authentique, attention, il ne s'agit pas non plus d'être un troll ou qu'on devienne le personnage de sa chronique. Mishka sait très bien s'effacer devant les écrits des autres ou devant la parole de l'artiste. Après tout, normalement, alors moi c'est Philippe Gildas qui m'avait dit ça un jour, celui qui présentait Nulle part ailleurs dans les années 90, il n'y a pas, selon lui, de bons intervieweurs, il n'y a que de bons interviewés. Voilà, vous devez vous effacer derrière et le récit de l'artiste est normalement plus fort que vous. Alors, on vous remarquera peut-être dans une constance ou une cohérence, mais normalement, c'est pas vous l'acteur principal. Ce qui peut-être a parfois échappé à Philippe Manœuvre, qui a fait des excellents écrits, mais qui est devenu aussi une sorte de personnage, alors qu'il courait après les autres.
Est-ce que quand on parle de ça, et c'est intéressant ce que vous dites tous les deux, et d'ailleurs, on peut le dire, Michel, invitation officielle lancée au chroniqueur sale, hein, s'il veut faire une émission, et justement pour compléter pourquoi pas cette émission et parler globalement de critique, de comment on parle de musique, etc., notamment dans le rap, c'est
lancé. Il a fait une vidéo qui est très intéressante sur les journalistes rap, pour le coup.
Absolument.
Vraiment super bien sa vidéo, je la recommande à tous ceux qui
regardent. Je suis tout à fait d'accord. On mettra ça en description. Et oui, ce que vous êtes en train de dire, c'est... Il y a un écueil, effectivement, et je pense qu'il a fait un peu de mal parfois à la presse musicale et qui a moqué parfois, en tout cas, la presse traditionnelle. C'est cette volonté d'être absolument un prescripteur, d'être précurseur, de voir avant les autres, voir pourquoi pas de guider les goûts des autres. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Effectivement, est-ce qu'il y a cette dérive un peu et de, tu te déconnectes du public, en fait, comme tu le dis, et puis surtout, t'as l'impression de voir avant les autres, alors que,
et c'est en fait, le journaliste. C'est pas volontaire, c'est l'exercice, hein, qui permet ça. Effectivement, on voit les choses avant les autres, on les retient, certains peuvent se prendre au sérieux, mais après, c'est une question de caractère, une question aussi de passif, comment on aborde le métier. Moi, j'ai pas la même façon d'aborder aujourd'hui le journalisme que je l'avais il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je me souviens, voilà. Alors, une petite anecdote. Je me souviens dans un magazine nantais, dans lequel j'étais rédacteur en chef, me faire plaisir, je l'avoue, en détruisant un album, effectivement, que je n'avais pas aimé. Voilà. L'écriture haineuse, elle est extrêmement facile. On se fait plaisir avec les superlatifs. Voilà, c'est quelque chose de terriblement vivant. Et puis, c'est quelque chose de terriblement aussi odieux et affreux. Sauf que le lendemain même, dans une soirée, je croise l'artiste auquel j'ai descendu le disque.
Est-ce qu'il t'a tapé?
Pas du tout. Eh bien, c'est pour ça que j'en ai retenu une leçon. Il m'a pris à part et il m'a dit qu'il comprenait complètement, mais qu'il souhaitait comprendre un petit peu plus pourquoi je n'avais pas aimé l'album, parce que c'était pas forcément argumenté. C'était peut-être un peu facile. Et on a discuté comme ça pendant 1 heure. Et je trouvais ça terriblement intelligent. Et je trouvais que j'en ai conclu que derrière chaque album, Il y a du travail malgré tout. On peut ne pas être d'accord ou pas avec ce travail. Et je me suis souvenu que, eh bien, beaucoup plus jeune, j'écoutais quelqu'un à la radio, ça ne traitait absolument pas de musique. Vous voyez comme l'exercice peut se porter sur différents domaines. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Raymond Faure-Lamy, qui était sur RTL et qui décrivait le cinéma, qui annonçait les films et qui donnait son avis. Et toujours, il prenait soin de dire, voilà, ce film-là, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas parce que je viens de là, je viens de tel univers et j'aime telle ou telle chose. Donc ça, ça ne me plaît pas. Par contre, vous, allez-y. Allez-y si vous aimez telle ou telle chose. Et voilà, il peut y avoir un artiste qui s'adresse à telle ou telle communauté. Il faut juste se rappeler que son avis reste son avis, qu'il n'est pas forcément majoritaire, qu'il peut être décalé par la surconsommation et que c'est très important, au contraire, je trouve, de faire la pédagogie.
Alors, j'allais réagir à un truc, c'est... Tu me dis que, de part, évidemment, ta position en tant que journaliste, enfin, pas toi personnellement, mais le journaliste de manière générale, est précurseur dans le sens où il voit souvent avant les autres les mouvements qui émergent, etc.
C'est vrai.
Je pense que c'est vrai, mais alors, moi, de prime abord, je me suis dit, c'est pas complètement vrai. Mais je pense que c'est parce qu'il y a eu un basculement avec Internet. C'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, des communautés sont capables d'émerger et de parler d'elles-mêmes et de communiquer d'elles-mêmes sans passer par le journaliste pour en faire part aux autres, et que donc parfois le journaliste arrive après, parce qu'en fait c'est une niche, une communauté qui a émergé, qui a déjà grossi d'elle-même, mm-hmm. qui a déjà fait parler d'elle-même, qui a déjà rassemblé des gens, et le journaliste arrive seulement derrière. Mais je pense que c'est très propre à Internet, en fait, ça.
Oui et non, en fait, c'est vrai, et puis je pourrais y apporter des contre-exemples. Parfois, être dans un mouvement, on n'est pas forcément la personne la mieux placée pour en parler.
Bien sûr.
Donc, ça peut être bien aussi un regard extérieur. Un journaliste, c'est pas forcément quelqu'un d'érudit. Et souvent, ça peut être le cas. C'est surtout quelqu'un qui a une méthode de travail, une façon de penser différente, qui essaye de remettre en perspective. Après tout, toutes les données brutes sont accessibles à tout le monde. Vraiment. Le journaliste va seulement les lier entre elles. Mmh. Voilà. Et c'est cette habitude de les lier entre elles, de prendre du recul, voilà. Alors, effectivement, il y a plein de communautés, de genres, voilà, qui émergent sur Internet. Et parfois, certains internautes peuvent en trouver avant les journalistes. Attention, il y a des gens qui ne sont pas journalistes, qui peuvent être meilleurs que certains journalistes. Et inversement. Voilà. Ça, il n'y a pas de choses comme ça. C'est juste une méthode de travail ou une façon de penser. Ouais.
Pour continuer un peu cette petite chronologie entre guillemets, et avant de parler du bouleversement Internet, plus années 90, justement, on a beaucoup parlé de rock et de pop, est-ce que les grands mouvements qui ont suivi, grands mouvements culturels, musicaux, comme la musique électronique évidemment, comme le hip-hop, puis rap, ils ont connu un peu cette même époque un peu glorieuse de la presse musicale? Est-ce que ça a autant marqué aussi pour ces courants musicaux? Est-ce que tu connais un peu cette presse d'ailleurs? Est-ce que c'était des univers très très différents? Est-ce que ça se mélangeait? Est-ce qu'il y avait une forme de filiation? Pas du tout.
De filiation entre quoi?
Entre la critique rock, entre guillemets, entre la presse musicale comme elle était organisée auparavant, et puis ensuite ces nouveaux mouvements qui s'adressent pas forcément aux mêmes gens, qui ne sont pas tenus par les mêmes gens, etc. Est-ce qu'il y a eu quand même du lien? Est-ce qu'on s'est inspiré les uns des autres?
Alors, d'abord, les années 90, c'est la toute puissance de la presse musicale. Ouais. Ça vend énormément. Mais là aussi, encore, je tiens à repréciser que c'est lié à la musique avant tout. C'est pas forcément lié à la presse, c'est lié à la musique. La musique est beaucoup plus connectée aux mouvements sociaux. Dans les années 90, regardez par exemple, le grunge est un ras-le-bol. Le grunge est un rejet complet des années 80, ces années fric, ces années pimpants, clinquants, qui sont très connectés au capitalisme, etc. Et donc le grunge qui arrive quand même dans une ville avec un taux de chômage incroyable, une ville où il pleut très régulièrement, est un ras-le-bol, une espèce de nihilisme. Il vaut mieux en fait faire du rock, du grunge que se suicider. Voilà, on va mettre toute l'énergie en fait dedans. Et d'ailleurs, on s'en moque de la façon dont on est habillé. On peut être habillé avec un jean avec des trous, etc. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire si je n'ai pas d'avenir? C'est aussi le proto-punk que va faire The Stooges via Iggy Pop, qui est dans les usines de voitures à Detroit et qui n'a rien d'autre à faire que ça en fait. Ils savent même pas s'ils vont aller jusqu'à leurs 30 piges en fait, et ils vont seulement reproduire les sons des frappes hydrauliques qu'ils entendent à l'usine. Sans avenir, eh bien, vaut mieux se dépenser, donner tout ce qu'on a. Et c'est pour ça que ça donne ces mouvements-là musicaux. Mais ces mouvements-là, vous le voyez, étant tellement connectés à la sociologie de tel ou tel endroit, à l'humeur du moment, qu'il va y avoir de plus en plus d'écrits autour, de plus en plus d'études autour de ça, et donc ça va générer beaucoup plus d'écrits, et c'est une période assez passionnante niveau mouvements sociaux, et c'est pour ça qu'il y a eu autant aussi de magazines de presse spécialisés, parce qu'il y avait la matière, et aussi parce que beaucoup de fanzines, de magazines vraiment de fans se sont mutés aussi professionnellement.
Bah d'ailleurs, c'est le cas pour parler, alors je connais moins les musiques électroniques, j'avoue, je sais pas ce qui se faisait en presse autour des musiques électroniques. Par contre, notamment pour le hip-hop, on a eu évidemment un fanzine à l'origine qui était Get Busy, qui est devenu ensuite un magazine. On a eu ensuite Radical, etc. Et qui, mine de rien, alors je sais pas s'ils ont laissé honnêtement la même marque qu'un Rock and Folk peut l'avoir fait sur le rock en France, hein, mais, par exemple, ou Rolling Stones à l'international. Ils restent mythiques. Ils ont participé à l'essor du mouvement, mais j'ai pas l'impression qu'il y a cette même mémoire, ce même rapport aux choses. C'est pas la même nature exactement, tu vois, cette presse, et comment elle a laissé sa trace.
C'est pas la même chose, puisque déjà, il y a un passif qui est beaucoup plus américain, et la forme, en fait, de hip-hop qui émerge en France est dans les premières années complètement différente. On n'est pas du tout sur l'ambiance Africa Bambaataa, en fait, aux États-Unis. Voilà. Je rappelle quand même que le premier titre rock en France, c'est Chagrin d'amour, avec Chacun fait rap. Ce qui lui plaît. Ouais, oui, c'est le premier titre rap. Et on considère que le premier succès rap français reste MC Solar. Voilà, on n'est pas du tout sur le même rapport qui émerge dans les premiers courants dans le Bronx n'ont rien à voir. Les fêtes de quartier, l'impossibilité de rentrer en boîte de nuit, le fait de mettre de la musique, voilà, sur les terrains de basket, le fait de se rendre compte qu'entre deux scuds, il faut un MC, que le MC finalement, eh bien, va commencer à dériver sur le vinyle et finalement ça va créer le rap. Tout ça, voilà, il y a toute une découverte, tout un balbutiement, en fait, qui se fait là-bas et qui, en France, nous l'avons digéré dans un premier temps, hein, j'entends, digéré d'une autre façon avec notre côté très intellectuel aussi, notre tradition de chansonnier. Ah, MC Solar, il est directement issu de cette tradition très érudite et qui n'est pas du tout l'approche, en fait, américaine. Un Africa Bambaataa n'est pas érudit sur les textes, c'est une érudition sur la musique, sur la musicalité. C'est l'homme aux milliers et milliers de vinyles, en fait. Donc c'est une autre quête. Et dans un premier temps, du coup, il y a moins à raconter sur le rap français, ou qui va surtout parler du rock, du rap américain. Donc, je pense que c'est pour ça que le fil a été un petit peu plus lent. Et puis aussi, le rap n'a pas été accepté tout de suite, hein, soyons honnêtes.
Mais d'ailleurs, j'invite nos auditeurs, si vous voulez. J'avais fait une vidéo qui est un peu ancienne maintenant. Alors, je la renie pas. Le contenu est bien, mais la forme est pas folle. Mais sur, effectivement, les débuts du rap en France et comment, au début, en fait, c'est presque la variété qui reprend les codes hip-hop dans un premier temps et qui l'impose comme ça. Et puis après, il y a une anomalie qui a chopé sur TF1 et plein de trucs qui se passent comme ça. Et c'est assez intéressant, effectivement. C'est pas nier du tout le fait qu'ensuite, très vite, il y a une vraie culture rap française, hip-hop français, et qui est repris, comme tu le disais, digéré, etc. Début, ouais. Et avec vraiment sa propre identité par rapport aux États-Unis. Mais au début, il y a vraiment ce côté un peu importation, entre guillemets, phénomène de mode presque, qui est assez intéressant.
Je rappellerai que le premier top 1 dans les charts américains, le premier top 1 hip-hop ou rap, ça n'est pas un groupe de rap. C'est Rapper Studio qui s'est
servi. Ah oui, Rapper, oui. Forme.
Ah bah oui.
Oui, mais c'est pas un morceau rap, mais oui, ça a participé, effectivement.
C'est le premier, en tout cas, estampillé comme ça. Mais le premier morceau rock en France, c'est, je sais plus, celui qui chantait Jardin d'hiver.
Henri Salvador.
C'est Henri Salvador. Voilà, c'est considéré comme ça. Ouais.
C'est un peu toujours la même mécanique, j'ai l'impression, c'est toujours...
Et on s'empare du phénomène de mode, hein, c'est ça. Hein.
Ouais, il y a un phénomène, enfin, il y a d'abord un truc qui est authentique, brut, et qui est toujours en réaction à une certaine forme d'oppression, et exactement. Puis très vite, c'est rattrapé par des bourgeois en place qui font le truc d'une manière qui sonne populaire, on va dire, tu vois.
Et c'est puis, vrai, mais... Le... Je peux me tromper d'ailleurs. Tu parlais de ta vidéo. Moi, je renvoie plutôt à l'excellente bande dessinée Family Tree.
Ah bah merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Non, je disais en plus aussi. en complément, une bande dessinée qui est incroyable, qui raconte les premières années du hip-hop dans le Bronx, qui sont vachement intéressants. Mais corrigez-moi si je me trompe, je n'ai pas l'impression que l'émergence du hip-hop, notamment dans le Bronx, c'est une lutte contre les bourgeois. D'ailleurs, on m'avait dit une phrase très intéressante. Moi, je trouve que je médite dessus depuis une vingtaine d'années. Le rock et le rap ont en commun les villas.
C'est vrai.
La différence, c'est que les rockers veulent détruire les villas. Les rappeurs veulent y habiter. C'est deux positionnements vraiment différents. Mmh. Attention, je parle évidemment pas de toute la scène, justement, dont moi je suis extrêmement fan de la scène West Coast, qui est aussi une lutte pour les droits des Afro-Américains, etc. Mais il n'empêche que ce n'est pas la même finalité.
Comme toutes les punchlines, ça a ses limites, je trouve.
Exactement.
Cette phrase. Mais oui, c'est, après, ça dépend.
C'était moins sur une contestation. La motivation de sa création était moins sur une contestation.
Ben en fait, c'est surtout que je trouve que c'est à la base, même si, comme tu dis, genre, j'ai pas l'impression que ce soit un mouvement qui, à la base, soit se conscientise politique et ou tu vois en réaction à quelque chose, tu vois. Mais en fait, j'ai l'impression que toutes les révolutions musicales qui finissent par atteindre une grande échelle, se font toujours dans des conditions de vie sociale qui sont difficiles, tu vois.
Et on est d'accord. Et attention, dans un contexte difficile, mais j'allais dire, la création ne semble pas dans un contexte d'opposition. Au contraire, le premier slogan du hip-hop et du rap de manière générale est plutôt sur l'unité, est plutôt sur la paix, et plutôt sur des valeurs ouais, très importantes.
Ça, c'est pour le côté Zulu Nation, mais qui résume pas tout.
Évidemment, qui résume pas tout.
Il y a un truc qui est vrai. En fait, il faut un jour, franchement, c'est marrant qu'on arrive à ce sujet, et un jour, on parlera pourquoi pas des origines du rap dans une autre émission. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est vrai, c'est que dans un premier temps, le rap n'est pas revendicateur. Dans un premier temps, le hip-hop,
dans un premier temps seulement.
C'est avant tout se réunir et passer un bon moment.
Bien sûr.
Et voilà, c'est avant tout ça, c'est les block parties, etc. C'est célébrer la fête aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois quand on dit la Zumba aujourd'hui qui parle de teuf, etc. Mais dès les débuts du hip-hop, il y a ça aussi. Il y a juste célébrer la fête, la danse et se faire plaisir. Par contre, ce qui est indéniable, c'est que assez vite, il y a aussi un propos plus social qui apparaît. Et je dirais même qu'en fait, le propos social, même s'il n'est pas purement politique, il est dès la base là, comme le rock en réalité. Sauf qu'il je pense qu'il est différent, c'est que il est plus moderne dans le sens où c'est à travers l'affirmation de soi et la représentation avant tout.
Exactement,
quand on met son nom sur un mur,
exactement,
c'est dire j'existe, je suis là. Et la différence, c'est que souvent le rock émerge dans des milieux pauvres, c'est indéniable, de misère, etc. Et qui est un truc qui provient de là, quoi. La surcouche supplémentaire, je pense, dans le cadre du rap et du hip-hop, je réfléchis là en même temps que je parle, c'est à discuter tout ça, mais c'est qu'il y a aussi, notamment la discrimination raciale, le fait que l'oppression est encore différente, il y a une histoire différente, et qui est vécue dans la chair de manière encore différente, et peut-être même encore, ils sont encore plus ostracisés, et que rien que le fait déjà de mettre son nom sur un mur, c'est déjà un propos extrêmement fort, en fait, pour eux, et qui déjà reprend quelque chose. Donc en fait, ça prend juste une forme différente, tout ça. Moi, je vois un peu les choses comme ça.
Non, en fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Je trouve que ça n'est pas la même motivation à l'origine. Attention, on parle bien d'origine. Mmh. Et je trouve que c'est aussi le problème du rock. Le rock se crée en contestation et il est difficile. Et aussi, la perte d'intérêt du rock aujourd'hui, elle est aussi liée à ça. Difficile d'être en colère toute sa vie et difficile d'être en permanence en opposition. Le rap, lui, avait des valeurs d'unité et par contre est devenu un objet politique en racontant son quotidien. Le quotidien des gens, etc. Et là, il y avait sans doute beaucoup plus de choses à raconter, beaucoup plus de choses intéressantes, plus réelles, quand le rock, justement, a délaissé, en fait, ces quartiers-là pour être seulement en opposition contre les grands dogmes. Et ça, c'est très important, notamment dans l'adolescence. Hein, ça permet d'affirmer des idéaux. Mais, eh bien, sur le long terme, eh bien, ça est difficile de renouveler un discours quand on ne parle plus totalement du quotidien. Mmh. Voilà, ce qui a réussi, moi, je trouve, le hip-hop.
C'est intéressant ce que tu dis là. Moi, je pourrais être un petit peu taquin sur la phrase que tu as dit tout à l'heure en disant que peut-être que le rock, il voit quelqu'un qui a plus que lui et il dit c'est un fils de pute, il faut lui retirer, et que le rap, il voit quelqu'un qui a plus que lui et il dit ah, je vais aller le chercher.
Non, il dit ah, je vais aller lui vendre.
Mais en tout cas, c'est ce que tu dis là sur l'impossibilité de rester en colère toute sa vie. Je trouve que ça se voit aussi dans le rap. On voit ça avec la carrière d'Eminem, par exemple.
Par exemple, c'est une bonne idée. Ouais.
Tu vois, c'est là ici, son dernier album, ça a été compliqué. En tout cas, le retour critique et même public. Bon, bah, il reste, il y a évidemment énormément de fanatiques d'Eminem, mais je pense qu'il y a une bonne partie du public qui se lasse de le voir tout le temps en colère. Et quand il avait un clash avec Machine Gun Kelly, ça faisait partie des arguments de Machine Gun Kelly contre Eminem, qui disait, mais gros, t'es millionnaire, t'as 50 Grammy, arrête de casser les couilles, en fait, vas-y, chill, quoi, tu vois. Et ça me fait penser un petit peu à ce truc-là.
Et puis attention, la façon dont Eminem a explosé était aussi liée à son histoire. Alors certes, il y avait une technicité qui était imparable, une rapidité, un travail qui était vraiment appuyé, mais nous avons été aussi charmés par l'histoire très étrange qu'il avait avec sa mère, par l'endroit d'où il venait, par le fait que il était entouré d'un docteur Dre, etc. Et
puis c'était un blanc aussi, on en parlait.
Il y avait une histoire qui était intéressante autour de ça. Par contre, cette histoire, vous voyez, j'en parlais l'autre jour avec, par exemple, le chanteur de No One Is Innocent, et qui, lui, ayant connu les années 90, c'est un groupe qui est là depuis 30 ans, s'agace que chaque journaliste ne lui parle que sociologie, ne lui parle que des mouvements sociaux, et lui, il aimerait seulement une chose, c'est qu'on ne lui parle plus de ses paroles, mais qu'on ne parle seulement que musique. Ce qui est assez intéressant, c'était la première fois que du coup, j'entendais ça.
Ce que je voulais dire, c'est ce truc sur la difficulté en fait, juste, j'ai l'impression que le ton de l'époque change et que au moment où le rock, on va dire, revendicateur et un peu, regardez, on va détruire les villages, tout ça, est en poupe, a le vent dans le dos, si j'ose dire. On est dans un moment où la majorité des gens ont ce ressenti-là. Là, ici, on est dans une époque qui est beaucoup plus cynique, et ça se ressent aussi dans les artistes qui marchent, dans le discours ambiant, tu vois, ça part en couille, ça part en couille, et qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser aller le truc, et nous, on va profiter un peu, on va un peu dénoncer, mais en même temps, on sait que ça sert à rien, parce que c'est foutu, machin et tout. Mmh. Et justement, moi, la question que ça me pose, c'est jusque quand ça tient? Ce discours-là, parce que, en fait, est-ce qu'on est... je sais pas comment dire. S'il y a des gens qui... Enfin, si l'époque change, j'espère qu'elle va changer. On n'est pas à l'abri que ça change. Et qu'on retourne vers un truc plus positif, plus plein d'espoir, comme Salman et moi pouvons l'être. Peut-être qu'il y a des discours qu'on pourra plus entendre. Il y a des gens qui ont un prisme à travers lequel ils regardent la vie. Et qu'ils expriment dans leur art, qu'on pourra plus entendre d'ici une dizaine, une quinzaine d'années, comme aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'entendre du rap engagé premier degré ou du rock engagé premier degré, te dit, oh là là, la société, il y a des pauvres qui crèvent de faim et qui sont archi premier degré là-dedans, et tu te dis, gros, ça fait 20 ans qu'on dit ça, on en a plein le cul, en fait, tu vois.
Mais pas forcément aujourd'hui, hein, ça fait une dizaine d'années qu'on n'entend plus de choses engagées. Parce qu'effectivement, t'as raison, la période, elle est plutôt au cynisme, elle est plutôt à la désillusion, voilà. Après, il y a aussi une forme de je m'en foutisme, aussi en ce moment. Mmh. On dit qu'on est en train de reproduire un peu les conditions de la fin des années 80. Reste à savoir si nous allons rentrer dans une ère, comme tu le penses, d'espoir, de communion, ou si nous allons retourner dans une ère très années 90, c'est-à-dire le retour des guitares, de la revendication, de la brutalité. Et après tout, nous sommes entourés de mouvements sociaux. Ce qui a motivé ça à la fin des années 80, c'est quand même l'arrivée du sida, c'est les périodes de chômage, les chocs pétroliers, etc. Or, aujourd'hui, nous avons une pandémie, des dirigeants qui, pour certains, peuvent s'approcher en fait de la dictature. Voilà, qu'est-ce que ça va créer? Eh bien, ça, je peux pas être devin.
J'ajouterais bien un élément, c'est que évidemment que la musique est toujours un réceptacle, un symbole, etc. de ce qui se passe dans notre société, c'est une évidence. Mais c'est aussi une discipline, entre guillemets, c'est un exercice de style aussi, la musique. On reprend des codes, etc. Et je pense que à la fois, il faut prendre en compte le fait que la société n'est plus la même, mais aussi peut-être qu'on a utilisé des codes et qu'on a envie de les renouveler un moment. et que y compris dans le contenu de ce que l'on va dire, ça fait partie en fait de cet exercice de style du contenu, et que juste on a envie de passer à autre chose, et pas uniquement parce que la société a changé, mais aussi parce que tout simplement la discipline, il faut aussi la faire évoluer, ou en tout cas changer de cycle pour y revenir, pourquoi pas, etc.
C'est évident, et pour s'en convaincre, il faut toujours prendre d'autres domaines. Regardez, il y a eu toute une période de péplum au cinéma. Le péplum, après, a disparu pendant très longtemps. Il est logique que cette forte période basée sur les super-héros, eh bien, tente à disparaître après pendant quelques années à force de saturation. C'est pour ça que je tiens à prévenir qui ne m'écouteront pas, mais à trop axer sur Star Wars, etc., on pourrait tuer un peu la licence, hein. Mais c'est la même chose sur la musique, hein. Trop de R&B va tuer le R&B, trop de rock de tel style va, voilà, c'est normal.
Trop de drill tue la drill?
Non, absolument pas.
Marre de la drill. Putain.
Non, mais regardez, le néo-métal avait le vent en poupe et a duré 10 ans, et puis après, voilà. Ouais. Et en ce moment, est un peu en train de revenir.
J'aimerais. C'est des cycles, hein. J'aimerais qu'on termine cette partie sur on va parler un tout petit peu d'internet, pas en longueur parce que franchement ça mériterait un épisode, mais juste toi qui a vu le truc un peu, tu vois, mais je précise un truc tout à l'heure parce que c'était important, je pense, de le dire, quand je disais que Eminem était blanc, t'as réagi, Michel, c'est parce qu'en fait, c'est pas ça a été plus facile pour lui parce qu'il était blanc, mais c'est juste que c'était un marqueur en fait fort à l'époque. On disait oh, un rappeur américain blanc, c'était un truc, tu vois, qui paraissait incroyable, à tort ou à raison, mais en tout cas c'était vraiment un élément qui ressortait beaucoup à ce moment-là.
Oui, et puis on est dans une période avec des films, les blancs savent pas sauter, etc. Il y avait déjà une réflexion là-dessus.
Et autre élément aussi, c'est qui me paraît important, je vais revenir, parce que historiquement c'est vrai, si j'ai parlé du fait que dans le rap et le hip-hop, il y a la question aussi de la discrimination raciale qui entre en compte, elle est évidemment aussi aux origines dans le rock, parce que évidemment que c'est une musique noire aussi, le rock à ses origines. Mm-hmm. Donc voilà, ça s'est vécu après différemment, mais pour rappeler ça, comme je voulais pas juste qu'on imagine...
Non, mais c'est une musique de blancs que les blancs ont volé, même, ouais. À certaines communautés, ouais.
Bon, voler après, oui, c'est un grand débat dont on pourrait parler, mais effectivement,
adapté,
on peut le voir comme
voler,
ça.
Ou pas,
on peut le voir comme ça. Mais alors, sur Internet.
Et qui eux-mêmes, ouais, auraient été inspirés des Amérindiens.
Alors, ça, je connais pas cette.
Je conseille un documentaire qui s'appelle Rumble, sur le sujet, sur ces esclaves noirs qui ont été se cacher au sein des réserves et okay. qui auraient entendu des rythmes, voilà, ce qu'on appelle le proto-blues, donc ce qui serait un petit peu avant le blues et se métissant, du coup, avec les Amérindiens et ressortant, voilà, des réserves auraient, pour certains en tout cas, propager le futur blues mélangé après au gospel, à ce qui se fait à l'église, etc. Mais vous voyez, c'est bien la preuve que les musiques sont liées à des mariages, à des...
Évidemment.
À des mouvements aussi sociaux, à des musiques de leur époque, ouais.
Évidemment, évidemment. Et ouais, pour terminer sur cette partie-là, sur Internet, alors, on va peut-être pas parler, on connaît un petit peu l'offre aujourd'hui, et franchement, on en parlera avec, pourquoi pas, le chroniqueur sale ou d'autres personnes encore, mais juste, est-ce que ça a quand même foutu un putain de... C'était un coup dur pour la presse traditionnelle, qu'elle soit écrite, mais même radio, télé, qui avait déjà d'ailleurs abandonné un peu le fait de parler de musique, mais ça a été... ouais, est-ce qu'on est d'ailleurs revenu vraiment... Est-ce que ça existe encore, la presse musicale, aujourd'hui?
Je parlerai à mes patrons, je te donnerai ton adresse.
Non, mais franchement, la question, elle peut se poser, c'est un peu caricatural, mais tu vois, il y a un truc quand même, ça s'est affaibli, honnêtement, non?
Oui, non, c'est un sujet un peu complexe, abordé aussi rapidement.
En tout cas, c'est fait par d'autres personnes que les journalistes, peut-être.
La question, est-ce qu'elle a disparu? Non, pour moi, elle a pas disparu. En fait, il y a, selon moi, mais vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais pour moi, il y a une utilité. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de musique. Il n'y en a jamais eu autant. Il n'y a jamais eu autant de groupes. D'ailleurs, chaque année, on augmente même le temps d'écoute. Vous voyez, on est rendu, là, il y a eu une étude dans le monde par l'IFPI. On est passé quand même de 18 heures l'année dernière de musique écoutée à maintenant à 18,4 et on ne fait que, voilà, progresser. Il y a énormément de musique qui se met sur le marché. Alors, je sais plus c'est quoi le chiffre, mais je crois qu'on m'avait parlé un truc du style, il y a 35 000 musiques par jour qui sont mis sur les plateformes. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses. Dans cette profusion, je trouve qu'il y a parfois, on peut l'appeler prescripteur ou pas, il y a parfois un peu besoin d'aide. Dans toute cette FNAC, eh bien, pour prendre un exemple, mais qu'est-ce que j'écoute? Eh ben, de temps en temps, il y a besoin de tête de gondole. Attention, on peut ne pas être d'accord avec le prescripteur. Moi, je ne dis pas que le journaliste a toujours raison. Il peut être d'ailleurs journaliste, il peut être internaute, il peut être peu importe en fait. Moi, je fais pas de sanctuarisation en fait de ça. Je dis le journaliste a une méthode de travail. Vous pouvez l'aimer, pas l'aimer. Surtout, ce que je conseille moi, c'est choisissez un guide, un ami, je sais pas comment on peut l'appeler, un prescripteur qui vous corresponde. Voilà, c'est juste ça. Peu importe d'où il vient, comment il est, quel est son passif, écoutez seulement ses conseils, voilà, ça fait du bien. Si vous sentez qu'il est du même univers musical, culturel, suivez ses conseils et vous allez faire d'excellentes découvertes. Mais ouais, ne vous attachez pas à un média. Voilà, moi je aujourd'hui, évidemment, en vieillissant, moi je fais beaucoup plus attention aux signatures. Je sais que tel ou tel journaliste, je ne vais plus lire l'article par son titre, mais je vais le lire parce que tout ce qu'il dit en fait m'intéresse. Donc pour moi, il y a quand même une nécessité de critique pour faire le tri dans cette profusion qui est immense. Après, tous les journalistes n'ont pas raison, tous les internautes n'ont pas raison. À vous de trouver le vecteur qui vous correspond le plus.
Ouais, mais franchement, dans les faits, déjà en termes de, si on prend la presse écrite, en termes de vente, c'est catastrophique. Mm-hmm. Bon, pour tout le monde, de toute façon, c'est pas que pour la presse musicale. Mais j'ai envie de dire, même la radio, télé.
Mais attention, elle n'est pas morte. Ouais. Hein. C'est la même chose qu'on a dit du vinyle, hein, que le vinyle était mort. Non, l'arrivée d'Internet est pour moi l'équivalent du CD. Mm-hmm. Bien sûr, c'est une métaphore un peu grosse. C'est la même chose. Il existe encore d'excellentes ventes hein, de la presse. Hein. D'excellentes ventes. Pas forcément la presse musicale, mais si on prend le succès, par exemple, de ce type qui a lancé 24, le 1 Hebdo et America, c'est les textes sont incroyables, c'est du dos collé, tous les reportages sont fous, moi ça me rend ivre, ça me fait pleurer, ça me met en joie, c'est excellent et ça a des ventes assez incroyables. Voilà. Mais on est sur un autre mode de consommation. Attention, il faut vraiment distinguer la majorité de voilà. Les vinyles, ils ont toujours continué à se vendre. Après, les vinyles, ils reviennent. Mais moi, j'écoute à la fois des MP3 et j'écoute des vinyles. C'est pas du tout le même mode de consommation. J'écoute des MP3 quand je travaille sur l'ordinateur, quand je suis, par exemple, sur un trajet. Mais chez moi, à l'heure de l'apéro, je mets un vinyle parce que le geste est différent, parce que je vais adapter, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est souple. La presse papier, c'est la même chose. La presse papier, c'est le temps de lire, de se poser dans un canapé, d'être dans les transports, complètement différent de quand je suis dans un ascenseur et j'ai envie d'une news très rapide. Ce sont deux consommations, deux offres différentes pour deux sortes de clients différents, même si certains peuvent être hybrides.
Je suis complètement d'accord après ce qui est...
Donc pour moi, elle ne disparaîtra pas.
Non, mais
ce qui... elle s'adresse à un autre public aujourd'hui.
Mais ce qui me paraît indéniable, c'est qu'aujourd'hui, tu veux monter un magazine papier, c'est une galère absolue. C'est une galère absolue.
Alors, notamment, et ça, on en parle très peu par rapport au prix du papier, justement.
Bien sûr.
En ce moment, le prix du papier a explosé.
Même imprimé, etc. Enfin, ça demande une complexité absolue et pour se retrouver dans ces frais, putain, c'est une galère. Donc c'est pour ça que tu vois, je ne ferai pas le parallèle avec les retours, les machins, etc. Je crois que il restera une niche pour des gens amateurs, mais je crois pas à un retour, par contre.
Il restera une niche.
Ça c'est vrai. Et je sais même plus comment on était arrivé. Oui, par rapport au bouleversement Internet. Est-ce que tu regrettes que justement peut-être que les gens qui parlent le plus de musique aujourd'hui dans des médias ne soient pas des journalistes? Est-ce que pour toi c'est une perte? Est-ce que c'est juste une autre façon de parler? Est-ce que fondamentalement c'est juste une étiquette et on s'en fout journaliste ou pas? L'approche peut-être la même, la qualité, le propos?
Non, mais j'ai pas de leçon à faire. Hein. Enfin, les gens, je trouve qu'ils voilà, il faut c'est à eux d'interroger leur propre pratique. Hein. Voilà, moi je considère que surtout les lecteurs de 20 minutes, moi ça me dérange absolument pas que les gens lisent 20 minutes. Très bien, c'est déjà de la lecture. Et si parmi eux, statistiquement, 10% passeront à la presse traditionnelle comme Libé, comme Le Figaro, comme etc. Mais c'est tant mieux, c'est 10% déjà incroyable. Ce qu'il faut surtout, moi c'est mon dada, il faut surtout que les gens écoutent de la musique et que les gens consomment de la musique. Après, voilà, après, ils pourront avoir les informations si ça les intéresse, par tel ou tel support, voilà. Par contre, ce qui me désole, c'est que parfois, à plus fournir cette offre-là, on ne tombe plus amoureux de certaines histoires. Voilà. Moi, c'était aussi ce qui avait motivé, par exemple, la création d'une chaîne YouTube. C'était, par exemple, Iron Man utilise beaucoup de chansons d'AC/DC. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui connaissent AC/DC, mais il y a beaucoup de gens qui qui ne connaissent pas l'histoire. Or, moi, cette histoire d'AC/DC, je suis pas né avec AC/DC, c'est beaucoup plus vieux que moi. Et si, si, quand même.
Ah,
et,
ah.
Mais si Rock'n Folk n'avait pas fait de redite, par exemple, en réexpliquant quelle était l'histoire, en réexpliquant comment était mort le premier chanteur, d'une façon tragique, d'une façon mythique aussi, eh bien, je serais passé à côté de quelque chose. Ça n'est pas très grave de ne pas savoir l'histoire d'un groupe, mais c'est ce qui donne du relief à un plat. Ça s'appelle juste du sel, ou ça s'appelle du sucre, ou des condiments, c'est juste ça. Votre viande, elle restera très bonne. Mais peut-être qu'avec une petite moutarde en plus, ça donne une autre saveur.
C'est marrant parce qu'on a souvent discuté ça avec Michel. On n'a pas le même rapport. Moi, c'est vrai que tout le culturel autour de la musique me passionne. Michel, il dit, c'est pas, et même je pourrais parfois avoir tendance à dire que c'est important de s'intéresser à ça. C'est pas une obligation, évidemment, mais que ça me paraît quasi nécessaire parfois quand on veut comprendre une musique. Avec Michel, on n'a pas exactement la même position. Qu'est-ce que tu penses de ce que dit Sam, tu vois? Est-ce qu'effectivement c'est le sel, c'est le condiment? Est-ce que, en fait, c'est deux trucs complètement qu'il faudrait limite séparer parce que tu peux t'intéresser
en fait,
qu'à la musique en
même temps? Je pense que ça participe de ouf à ce qu'un truc marche. Tu vois?
Okay.
Genre, je m'exprime vraiment très bien aujourd'hui. Je dors beaucoup, je vous entends. Je trouve que, enfin, moi, la première fois que j'entends parler de 50 Cent, c'est les 9 balles. C'est pas sa musique. Tu vois, y a énormément d'artistes comme ça. En fait, un artiste qui perd sa grande échelle, c'est un générateur d'anecdotes, limite avant toute chose, tu vois. Mmh. Et ça, c'est un truc que je conçois très bien. Mais à l'inverse, y a des artistes, je préfère rien savoir. Et même leur gueule et tout, y a des artistes, je kiffe, puis je vois leur gueule et je dis, oh putain, c'est cool. Tu vois? Genre, je sais pas, j'aime bien avoir de la place aussi juste pour kiffer un sentiment, un son, etc. Tu vois, et pas lier ça à quelque chose de réel. Tu vois, j'aime bien aussi le côté un peu magique, un peu abstrait. Après, j'ai le parcours que j'ai, je fais de la musique pour manger. Tu vois ce que je veux dire, genre et pas en tant qu'artiste, plutôt en tant qu'artisan. Donc j'ai un rapport à la musique qui est assez, je le vois comme plein de choses, mais je le vis essentiellement comme une discipline. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est quand j'écoute un morceau, c'est comment il est fait, tu vois. Comment il est fait, je veux dire, l'architecture du morceau, on va dire.
Mais justement, en fait, l'environnement va pouvoir parfois influencer cette structure. C'est pour ça que.
Mais bien sûr, je suis comme tout le monde, je regarde des docus et je suis très content de savoir qu'un Lil Wayne, quand il va poser son couplet, il l'a pas écrit et qu'il refait deux phrases et puis machin. Et c'est des trucs que je trouve intéressants, tu vois. Mais
je parle même d'environnement. La façon dont rappe Snoop Doggy Dogg et dont va rapper le Wu-Tang est complètement différente. Elle s'explique de l'endroit d'où ils viennent.
Ouais.
Je veux dire. Snoop, il est en Californie, il fait chaud, il va pas rapper extrêmement rapidement, il est dans un état qui est un peu plus entertainment, avec de la weed, etc. On n'est pas du tout dans les bas-fonds de New York, avec un truc un peu plus tendu, qui est un peu plus proche du jazz, etc. Ils vont forcément produire une musique différente. Alors, je ne dis pas qu'il faille absolument apprendre ces histoires-là, mais ça n'est pas non plus qu'un papier cadeau autour d'un artiste. Il y a des vraies explications. C'est quand même étrange que dans la ville de Bristol, une ville où il pleut beaucoup, où il y avait un taux de suicide assez incroyable, produisent des groupes comme Massive Attack, comme Portishead, ouais. Tiens, c'est un peu étrange. Avec des passages d'esclaves jamaïcains, c'est étrange. Une ville très industrielle, eh bien, c'est aussi on a aussi le produit de notre environnement ou d'une scène ou d'un, voilà. Après, c'est à mon rôle de les étudier. C'est vrai, mais.
Je trouve ça vraiment intéressant. Moi, ça me fait un peu penser à, j'ai été pour la première fois dans un resto très cher. Récemment, parce que maintenant je suis riche. Et du coup, là, ils te font rencontrer le chef, et le chef, il t'explique ce qu'il a fait, et machin, etc., tu vois. Et ça me fait penser à ce truc-là, de se dire, on t'amène l'histoire derrière la chose, comment elle a été fabriquée, etc., pour lui donner plus d'épaisseur, plus de valeur, en fait, tu vois.
Essaye de manger le même plat sans savoir l'histoire, voir ce que tu disais en fermant les yeux.
Ouais.
Il n'aura pas la même saveur. Après, il ne s'agit pas de surgonfler une légende, d'en faire un mythe, de dire que ça a été cueilli en haut de la montagne, voilà, d'Odan, etc. il faut sentir quand même un peu de d'authenticité. Mais c'est vrai que ça donne, voilà, la profondeur, du relief à certaines choses.
Ouais, ouais. C'est intéressant, tu vois, mais c'est pas le truc vers lequel je plonge en particulier, tu vois.
Genre, parce que t'es un faiseur, en fait, aussi, Michel. C'est-à-dire que
c'est sûr. Je fais beaucoup plus de musique que j'en écoute, tu vois. C'est sûr.
Ça change aussi les choses, tout ça.
Je fais de la musique 10 heures par jour depuis 10 ans, tu vois ce que je veux dire? Genre, en vrai, la musique, j'en écoute, j'ai pas le temps, tu vois.
Mais c'est vrai que mon obsession en tant que journaliste, ça va pas seulement si je t'interviewais, faire la promotion de ce que tu fais ou de la dernière production. Ce qui va moins m'intéresser à titre personnel et ce qui j'essaye de retranscrire dans mon travail, c'est pourquoi tout n'est pas dû au hasard, pourquoi t'as fait ça comme ça, pourquoi tu l'as écrit comme ça, pourquoi. Et la raison la plus banale, elle peut être la plus géniale aussi, hein. Ça peut être parce que je me suis cogné, parce que j'ai eu l'idée ce matin. La plupart des grands tubes des fois du rock sont dus à rien du tout, enfin Smoke on the Water parce qu'il y a le casino d'en face qui brûle, quoi, tu vois, le casino en Suisse sur de la flotte. C'est plein d'histoires comme ça, et parfois je te dis, les histoires les plus banales sont les plus intéressantes, au contraire, parce qu'elles sont authentiques.
Les gars, je vous propose de passer à une seconde partie. On a déjà pas mal discuté là. Elles sont peut-être un peu plus courtes, les autres parties. Mais il y a un truc qui m'intéressait. Parler un peu du journalisme musical, du journaliste même, et de ses interlocuteurs. Mm-hmm. Dans le sens où, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que c'est pas compliqué, parfois, le lien avec les artistes? T'en parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de la connivence, parfois? Ce qui change un peu le regard et... Ça peut être embêtant. Est-ce que parfois tu es obligé de te freiner et donc comment perçoit ça un peu le spectateur ou le lecteur, etc. Ça change les choses. Enfin, il y a de l'humain aussi derrière tout ça. Et est-ce que c'est pas un problème parfois?
Je prends un grand temps de réponse parce qu'il me vient plein d'idées comme ça et je ne sais pas comment l'aborder.
Il faut réfléchir.
Oui, ça peut être un souci. Oui, ça peut être un souci. Mais c'est doit être un souci personnel. C'est pas un souci général. Ça dépend d'où on vient, ça dépend de son expérience. Moi, il m'arrive d'être proche d'artistes. D'ailleurs, je suis assez proche d'artistes parce que, eh bien, le journaliste, c'est surtout un métier solitaire. Vraiment. On est seul en concert, on est seul face à sa page blanche, on est seul à défendre auprès d'un rédacteur en chef. On est seul parfois aussi face à des confrères. Comme si, par exemple, fallait pas copier sur la copie d'à côté ou ce genre de choses-là. Donc, ça arrive. Et on va passer effectivement beaucoup de temps avec des artistes. Le fait de s'auto-censurer, de choisir de ne pas critiquer à sa juste mesure l'œuvre de quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, bah, c'est seulement dû à un caractère personnel. Il y en a effectivement qui le font, qui se restreignent. Moi, c'est l'inverse. Je suis au contraire beaucoup plus critique avec les gens que je connais. Je demande parfois, est-ce qu'on peut tirer sur un fil, voilà, d'autres questions, d'autres positionnements qui, je trouve, n'ont pas été assez abordés. Moi, quand je fais mes interviews, je m'interroge toujours sur qu'est-ce qui n'a jamais été dit. En fait, ça ne m'intéresse pas de faire les mêmes articles que les autres. Ça ne m'intéresse pas de faire la même interview que les autres. Donc, je relis beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qui a été fait avant. Ça, c'est mon obsession. Pourquoi et qu'est-ce que je peux produire d'autre? Alors, effectivement, cette connaissance intime de certains artistes, sans en dévoiler le off, ça fait aussi partie des choses, eh bien, voilà, va permettre de tirer certains fils. Par contre, effectivement, certains se restreignent, certains, mais non, au contraire, je crois même être plus sévère avec mes sujets de fascination ou de connaissance. Parce que certains ne peuvent pas comprendre. Mais surtout, il y a besoin, non pas d'avis tranchés, mais d'avis expliqués. Moi, j'ai souvenir être au Progrès, le journal de Lyon. Et voilà, toute la rédaction culturelle est réunie. La moitié est contre David Copperfield, sur lequel il faudrait écrire la dernière page du journal, et l'autre partie est pour. Et malheureusement, eh bien, c'est arrivé sur un article un peu qui était un peu consensus mou, qui était ni pour ni contre, un article qui n'était pas du tout intéressant. Je trouve qu'il aurait fallu expliquer ce positionnement, au contraire, prendre du recul et expliquer au lecteur, voilà pourquoi il y a certains qui n'aiment pas, pourquoi il y a certains qui aiment, et je trouve que ça aurait donné une autre saveur que plutôt ne pas se positionner. Voilà.
C'est dommage de pas expliquer la méta derrière le...
De la même façon, surtout, quand je suis invité dans un festival à l'étranger, par exemple, je vais couvrir, ou voilà, j'aime préciser à la fin de mon article que par exemple, l'hébergement m'a été offert, ou que, voilà, je trouve ça assez honnête. Mais on ne doit pas s'interdire, effectivement, de ne pas faire la... la critique, ouais.
Est-ce que, comme parfois on le dit pour les politiques, le fait de parler de la production culturelle, ça devrait pas être une profession, et que forcément, tu vois, comme pour un politique, on va se dire, bah, le problème, c'est que, à la fois, il y a une question économique qui rentre en compte, à la fois, une question de réseau, de connivence, etc. Et qu'en fait, il faudrait peut-être être détaché de tout ça pour réellement, bien faire les choses.
C'est vrai. Pourquoi pas? Mais il est difficile aujourd'hui, c'est juste l'offre et la demande. Il est difficile, en fait, d'être terriblement déconnecté du milieu. On peut choisir de ne pas en jouer les règles, hein. Ça, y a pas de souci. Ce qui nous met d'ailleurs dans un autre positionnement dans le milieu, mais à côté. Mais aujourd'hui, un journaliste, il y a de moins en moins de rédactions en pied, c'est-à-dire de rédactions physiques. Et on appelle aussi un journaliste pour ses connaissances, mais aussi pour son réseau, pour ses capacités à être tenu au courant de telle ou telle information, de pouvoir passer du temps en studio aussi avec tel ou tel artiste pour raconter comment se fait une œuvre. Donc c'est difficile d'être totalement déconnecté, et c'est pour ça que c'est un métier qui est très prenant et qui déborde bien au-delà des heures autorisées, évidemment.
Oui. Et puis tu parles du fait qu'on fait beaucoup appel à des gens extérieurs, etc., qui ont déjà un réseau, juste parce que c'est une précarisation terrible de ce métier, de ce milieu.
Voilà. Chronophage, sous-payé, etc. Oui, c'est pas forcément d'ailleurs un métier que je conseille. Et souvent, quand je croise des étudiants, je leur conseille pas forcément ce métier-là, sauf à être au courant de tous les travers ou difficultés qu'il y a liés à ça.
Ah bah, vous savez que chaque année, je crois que c'est l'étudiant ou un truc comme ça, c'est le magazine qui publie, en fait, les métiers où il y a le plus de débouchés et ceux où il y en a le moins. Voilà. Et à chaque année, tout le temps, le journalisme est le dernier métier.
Ah bah oui.
On dit, ne faites surtout pas ce métier parce qu'il n'y a pas de boulot, c'est mal payé, etc. Vous n'y arriverez jamais.
Exactement, exactement. Et là, on est bien sur ce qu'on appelle un métier passion.
C'est terrible.
Non, mais oui, c'est une vraie difficulté. Mais en fait, c'est comme la vie, en fait. Est-ce que vous arrivez à dire à votre meilleur ami que là, sur ce point-là, il déconne, que là, tu n'aimes pas ça de lui? Si vous n'arrivez pas à le dire, effectivement, à votre meilleur ami, vous n'arriverez pas à le dire en journalisme. Or, il m'arrive de dire de temps en temps à mon meilleur pote, non, là, tu déconnes.
Tu t'es jamais grillé? Genre, t'as dit un truc, et derrière, l'artiste, alors qu'en plus, il aurait pu être important pour toi, parce que c'est une demande d'employeur, etc., de faire des interviews de ce type, ou je ne sais quoi, de le suivre. Tu t'es grillé, c'est foutu, il veut plus te parler.
Évidemment. Mmh. Évidemment. Mais ça m'a appris. Ça m'a appris sur, non pas la prochaine fois, je me restreindrai, je m'auto-censurerai, mais peut-être que j'expliquerai un petit peu plus ma démarche. C'est ça, en fait, que j'ai retenu comme leçon. Parce que devant une explication construite qui semble honnête et authentique, il est difficile d'avoir un retour violent, en fait, hein. Je vous parlais de Raymond Forlami, journaliste à RTL. Voilà, je viens de là, donc je ne peux pas aimer, en fait, ce type de film. Voilà. Et moi, beaucoup de choses me viennent des années 90, qui n'est pas non plus une période que je sanctuarise, hein, pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que les années 90 étaient autant partagées entre le rock et le rap. Hein. Donc moi, ça m'insupporte qu'on oppose ces deux genres ne se ressemblent pas. Mais moi, j'ai toujours eu l'habitude d'être dans ces deux mondes. Et j'écoute autant de rock que de rap, d'ailleurs, mais à chaque fois dans un contexte différent. J'adore le hip-hop pour cuisiner. Allez comprendre pourquoi. Ou en voiture.
Michel, t'as des trucs comme ça, toi aussi? T'as des musiques que t'écoutes plus dans certains cadres, genre pour cuisiner?
Non, moi, c'est plus, j'ai vraiment des moods. Genre, pendant 3 semaines, je vais écouter que du jazz, que du Gershwin. Et puis, voilà. Ça fait quand même longtemps que j'écoute beaucoup, beaucoup de rap. Mais même dans le rap, j'ai des phases, là je suis dans un délire régressif où j'écoute que du 50 et du Lil Wayne de 2003, tu vois, mais après je vais avoir une vibe caribéenne, je vais écouter que des Zumba un peu chiadé, tu vois, et c'est vraiment par vague. C'est rare vraiment que je mets une playlist et que je passe d'un style à un autre comme ça. C'est plutôt, je vais me bourriner là-dessus pendant 2-3 semaines et puis après je vais sortir et je vais passer à un autre truc.
Mais c'est lié évidemment à l'humeur, c'est pour ça que la musique aussi nous évoque, des souvenirs, qu'elle est si émotionnelle, mais aussi si personnelle. Eh oui, c'est pour ça que c'est un rapport qui est personnel, qui est parfois difficile à expliquer. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est que les années 90, c'était des années de fusion. Donc cet appétit ou ce mélange des genres, en tout cas chez moi, me vient de là, ouais. Mais c'est l'apprentissage de la musique, l'approche de la musique est évidemment personnelle et c'est pour ça que vos goûts ne sont pas forcément ceux des autres.
Et tu pratiques, tu fais de la musique ou pas?
Oui.
Oui.
Mais c'est pas forcément obligatoire.
C'est-à-dire, c'est juste
des critiques culinaires sont pas forcément, effectivement, n'ont pas le niveau de Marx ou de voilà quoi. Mais ça me semble évidemment apporter là aussi une saveur différente quand on sait comment se fabrique un plat. Toujours pour prendre la métaphore de la cuisine, je trouve que ça apporte quelque chose de différent. Après, comme c'est lié à l'émotion, on pourrait décrire même non techniquement. En fait, de la musique. Et c'est pour ça que moi, dans mes équipes, quand je suis rédacteur en chef ou à la tête d'un projet éditorial, je prends toujours la moitié de journalistes et l'autre moitié qui ne le sont absolument pas. Vraiment. Parce que les journalistes vont avoir une méthode de travail, mais aussi, malheureusement, des réflexes. Et les autres vont écrire peut-être parfois un petit peu plus avec leur trip. Je trouve que le mélange des deux est la perfection.
Oui. Ben, c'est pareil avec, je trouve, les musiciens sont pas toujours les mieux placés pour parler de musique, c'est sûr. Mmh. Mais c'est bien aussi. Donc c'est cool d'avoir un mélange des deux. C'est pour ça que moi j'essaie de grappiller un peu partout. Tu vois, je vais voir des youtubeurs qui font de la musique ou juste parler avec des artistes et machin. Et j'aime bien aussi avoir le ressenti. Même quand je fais des trucs, souvent j'envoie à des potes qui sont pas du tout musiciens. Tu vois, quand je veux des retours, c'est important, je trouve, d'avoir des points de vue différents. Oh là là, je dis des choses très intéressantes.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai.
Ben oui. Et c'est pour ça que, par exemple, les biographies des artistes sont parfois écrites par évidemment quelqu'un d'autre que l'artiste ou qui a une attachée de presse qui peut peut-être prendre du recul sur un projet, le vendre différemment et voir d'autres aspects.
Alors, Sam, et j'aimerais que Michel, peut-être qu'il peut nous dire un truc là-dessus. On a parlé, ok, du rapport avec les artistes, la critique, etc. Tu dis que, avant tout, par exemple, t'expliques ta démarche en théorie, ça se passe bien. En tout cas, toi, c'est comme ça que tu essayes de faire les choses, dire, bah, voilà, pourquoi
ça se passe bien avec l'artiste, parfois pas avec le label.
Et alors, voilà où je veux en venir. J'aimerais parler des autres interlocuteurs qui sont souvent des interlocuteurs des structures plus économiques, les labels, les festivals, éventuellement quand tu travailles avec eux, etc. Et là, ça commence à complexifier encore un peu plus le truc parce que, par exemple, Michel, tu vois, quand tu mates des youtubeurs, des mecs qui font des articles, je sais pas, des podcasts, etc., qui parlent de rap, on sait que parfois il y a des émissions qui sont faites avec des labels, qui sont faites avec Universal, avec machin, etc., etc.
Avec Thomas.
Avec Thoman, ici, effectivement, c'est un peu différent parce que Thoman, ils emploient pas les artistes directement, ils cherchent pas à vendre des artistes, etc. Thoman, ils cherchent à vendre du matériel et nous, on parle pas de matériel. Alors, tu vois, ouais. On est quand même, on est pas trop dans la merde.
Thoman, hein,
on est pas mal. Ah là là, Thoman, vous faites n'importe quoi. Non, continuez à nous payer. Mais... non, mais c'est un vrai truc. Après, Sam, tu nous en parleras parce que je pense aussi que c'est un truc important. Et puis, ne serait-ce même que quand tu bosses pour un organe de presse, il a aussi des gens qui les financent, etc. Parfois, des gens qui produisent des disques aussi. Et donc, ça peut. Mais Michel, toi déjà, est-ce que tu fais attention à ça quand tu consommes, c'est quand tu regardes du contenu, genre tu dis ah ouais, lui, je sais qu'il est un peu maqué avec telle personne, ou là, tu vois qu'ils essaient de me refiler un peu le truc, ou ça fait partie du jeu, c'est pas grave.
Bah, je le prends comme toujours avec un grain de sel. Hein. Tu vois, je regarde le truc, je me dis. En fait, c'est rare vraiment que j'écoute quelqu'un qui me dit un truc et je me dis autre chose que c'est son avis.
Ouais.
Tu vois, je regarde un truc, c'est son avis, il a le parcours qu'il a, etc. Tu vois, et je connais pas forcément tout son parcours et tout, tu vois, en plus. Donc.
Et tu cherches pas parfois à te renseigner là-dessus? Moi, parfois, j'aime bien, on me dit, ok, ce type, alors peut-être pas en musique, mais tu sais, qui affirme tel truc, pourquoi, d'où il sort, comment il est financé éventuellement, etc. Enfin, tu, et là, ça, je peux.
Qui profite le crime.
Non, mais il y a un peu de ça. Tu sais, sa parole, quelle valeur je lui donne dans le sens, enfin, pas la valeur, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, mais comprendre son positionnement, en tout cas, tu vois.
Ouais, ouais. Non, ouais, non, moi, c'est pas vraiment un réflexe que j'ai. Je crois que je suis vraiment dans ce truc d'auditeur moyen où j'ai, entre guillemets, j'ai pas le temps, tu vois. Je regarde le truc. Si le type ou le format me paraît intéressant, tu vois, je regarde le truc et. Mais par contre, je me dis jamais que c'est la vérité, quoi. Je me dis, tiens, j'ai vu une vidéo qui disait ça. Tu vois, je me dis pas, tu savais que c'est l'artiste qui l'a fait ci, machin, tu vois. Et pareil, enfin, je prends toujours ça de loin, quoi. Je regarde, je me dis, ah, intéressant. Et voilà.
Et Sam, sur ces questions-là, et notamment, je reviens sur cette idée que on sait que la presse, alors généraliste en général, mais est détenue par de grands consortiums qui ont souvent une activité culturelle, média, etc., qui parfois produisent des disques et tout. C'est à ta connaissance, ça peut être un problème parfois.
Ouais, ça peut parfois. Alors, mais j'allais dire les problèmes le plus auxquels je me suis confronté, c'était finalement pas forcément les actionnaires. C'est pas ça. C'est parfois les partenariats qui sont faits avec tel ou tel événement ou les facilités qu'on peut avoir avec certains labels. Par exemple, tel artiste va sortir un disque. Oui, mais le journal n'a pas suffisamment d'argent pour aller interroger l'artiste à Los Angeles. Bon, eh bien, le label propose de faciliter le trajet et pouvoir nous emmener avec lui. Mais après, il faudra distinguer. Déjà, on peut pas se battre sur tous les sujets. C'est bien aussi de pouvoir profiter de ce type de transport. Mais après, voilà, quel est le Jamel Label va nous dire qu'il faut écrire du bien de ce disque, par exemple.
C'est mais plus fin que ça.
Ben oui, c'est évidemment plus fin que ça ou plus pervers que ça. Mm-hmm. Mais il faut s'interroger aussi sur le rôle de l'article qui va être réalisé. Est-ce une simple interview? Est-ce une véritable critique? Est-ce, voilà, donc, si c'est dans un but de critique, si c'est dans un but d'enquête, là, il s'agit de se battre. Si c'est pour une interview, bon. Après, certains labels s'imaginent qu'en un quart d'heure, nous pouvons tirer les vers du nez d'un artiste. Bon, bah, je trouve que c'est plutôt à leur détriment, hein. Je veux dire, un quart d'heure, c'est assez rapide. On n'arrive pas à créer une convivialité, je trouve. Malheureusement, avec l'artiste, ça donne une interview qui, je pense, est nulle. Si l'interview est nulle, c'est au détriment du label, hein. Je veux dire, c'est à eux de mettre les petits plats dans les grands, quoi. Mmh. Mais voilà, c'est plutôt, je pense que le premier danger, c'est plutôt l'autocensure. Du journaliste, c'est le journaliste qui s'autocensure, croyant parfois que ça ne va pas passer. Assez souvent, ça passe. Et je vous dis, c'est la façon dont on doit le dire ou l'exercice qui est à interroger.
J'ai l'impression que qu'on est moins exigeant. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais qu'on est moins exigeant avec la presse musicale et avec les gens qui parlent de musique. Alors peut-être parce que ils sont moins importants, j'en sais rien. Mais par exemple, c'est une grande thématique dans la presse jeux vidéo, ça. Dans la presse jeux vidéo, on se pose beaucoup la question du rapport aux annonceurs, du rapport aux invités de presse, à on fait voyage, etc.
Alors, moi, j'ai fait partie de la presse du jeu vidéo et le rapport est complètement inversé. Moi, j'ai souvenir, en tout cas, moi, c'était il y a une quinzaine d'années, peut-être que ça a évolué. J'ai souvenir que nous étions une trentaine de journalistes qui couraient après une attachée de presse qui n'avait que 3 à 4 exemplaires du jeu. C'est complètement différent dans la musique où là le rapport il est inversé. Nous sommes 200 journalistes et qui se faisant courser par 10 000 attachés de presse. Donc le rapport est vraiment vraiment différent. Lié à la presse de jeux vidéo, moi j'ai souvenir qu'il fallait remplir des tonnes de demandes expliquant quel était le projet éditorial, combien de pages nous allions faire, et donc là il était assez difficile de vraiment faire une critique en fait du jeu. On pouvait se faire blacklister assez facilement. On peut se faire aussi blacklister dans la musique, mais si on représente un média important, ça va être difficile de maintenir cette blacklist pendant très longtemps.
Ça se fait les ménages dans la musique. les ménages, donc tu peux peut-être rappeler ce que c'est pour ceux qui connaîtraient pas ce langage journalistique entre guillemets.
Bah, ménage, ça veut dire travailler pour une marque, ouais. En dehors de son faire, je sais pas, une présentation. Oui, bien sûr que ça existe.
C'est un problème selon toi? Enfin, sans juger, j'ai compris que tu voulais pas juger. Mais est-ce que parfois ça fausse, en tout cas, le rapport aux choses, et ensuite comment on va mettre en valeur quelque chose et en fait chercher à le vendre fondamentalement, tu vois?
Ça dépend quelle marque. Moi, en tout cas, ça ne m'est pas arrivé. Moi, j'ai bossé plutôt pour des organismes comme Agisson, comme la SACEM, etc. Donc, j'ai pas eu encore de conflit d'intérêts. Peut-être que certains en ont eu. Non, mais c'est l'intelligence de chacun, ça. Certains vont travailler pour une marque et ne seront plus objectifs. Je trouve que la difficulté, c'est pas forcément avoir travaillé avec la marque, c'est ne plus être objectif. C'est ça. Et ça, c'est une question de critère, c'est une question de pratique.
C'est à moitié mal.
Vas-y. Tu crois à l'objectivité?
Ah non, mais il y a des gens qui arrivent à faire les deux. Évidemment. Moi, j'ai souvenir qu'on m'a demandé. Il y a des années, ça devait être au lancement justement de Daniel Craig à la tête de 007. On m'a invité une semaine à Londres, auquel je regardais le film, je pouvais rencontrer l'équipe, etc. Alors je crois que c'était Daniel Craig, c'était peut-être même celui d'avant. J'ai fait une critique assez acerbe finalement, que je regrette d'ailleurs aujourd'hui. Je n'ai plus jamais été invité. Bon, ben je recommencerai en fait. Il faut savoir aussi que si on est trop dithyrambique ou ce consensus pou, on perd aussi la confiance des lecteurs. Il faut juste être transparent, honnête, quoi.
Après, regarde, tu voulais dire un truc, Michel, peut-être. Tu voulais continuer sur...
Non, mais je me disais, c'est marrant, genre, moi, pour moi, la phrase qui revient souvent, c'est en fait, il n'y a pas d'objectivité, on peut être honnête, mais pas objectif, quoi.
À l'objectivité, ça n'existe pas.
C'est certain.
Ça n'a jamais existé, tout simplement parce que nous ne voyons les choses que par le prisme de notre expérience ou du point de vue dans lequel on se positionne.
Oui, voilà.
Donc c'est juste
un. C'est pour ça quand je t'ai entendu parler d'objectivité, tu vois.
Philosophiquement, le centrisme et l'objectivité n'ont jamais existé. Elles ne peuvent pas exister d'ailleurs.
Alors tu vois, encore une fois, peut-être qu'on en reparlera avec quelqu'un qui connaît vraiment spécifiquement ce sujet, mais il n'y a pas seulement la connivence et qui fait que derrière, ton écrit en lui-même va être différent, l'objectivité, etc. C'est aussi tout simplement en termes de visibilité au sein d'un média. Et quand je prends un exemple, alors je ne vais pas les accuser parce que je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je vais les citer parce que c'est des médias importants. Comment se deal un Planète Rap? Comment se deal aujourd'hui le code avec Mehdi Maizi? Parce que tu vois, au-delà même de comment il va leur parler, etc., c'est juste le fait qu'il soit extrêmement présent et mis en avant. Et donc, tu vois, c'est pour ça que la connivence, les liens économiques, etc., c'est pas seulement une question d'objectivité où on le balaye d'un côté, c'est comment chacun le vit. C'est que, il y a une réalité économique claire aussi derrière et juste de visibilité, quoi. Et comment on gère ça?
Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Je sais pas, c'est une réponse individuelle en fait, c'est pas une réponse collective. Je peux pas interdire aux gens, de toute façon je suis personne, mais pas interdire aux gens de faire des ménages, il y a des ménages qui sont intelligents, c'est aussi un métier précaire, donc il faut pouvoir trouver d'autres sources de revenus, ça je comprends. Après voilà, il y a une différence entre faire un ménage, je sais pas, avec je sais pas, un abattoir, je sais pas, le Qatar, qui, aucune idée, quoi. Et puis, la SACEM, ou, voilà, c'est différent, ouais. C'est différent. Ouais, je sais pas. Ça, en tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé.
On en discutera avec les concernés un jour, peut-être, Michel.
Mais en tout cas, oui, ça existe, hein. Ça existe d'acheter une couve. Ça existe, ou parfois, certains labels vont prendre beaucoup de publicité pour essayer d'avoir un article et tout. Oui, tout ça, ça existe. Après, je connais aussi des rédacteurs en chef qui refusent. Et je connais des journalistes qui refusent, ou je connais des journalistes qui font du ménage. La réponse, elle est vraiment individuelle. Hein. Vraiment. Mais à vous de sentir aussi, ça se sent en fait quand une personne n'est pas honnête. Honnêtement. Quand elle est trop dithyrambique. D'ailleurs, c'était quelque chose qu'on m'avait dit il y a quelques années au sein d'un journal. On m'avait dit, tu seras un bon journaliste quand tu recevras un peu plus de courriers qui se plaignent de toi.
Ça, c'est la théorie de Michel. C'est la théorie de Michel, ça.
C'était pas forcément pour générer du buzz, ça voulait dire que mes avis n'étaient pas assez tranchés et c'était trop doux du coup. J'avais compris la leçon, mais du coup j'essayais d'être trop doux et on ne savait plus si j'aimais ou si j'aimais pas. Or, on peut pas tout acheter et il faut pouvoir aussi fixer le niveau de la critique ou si vous êtes dans un journal et que tous les albums ont 5 sur 5, mettre un peu de nuance.
Après, moi,
quoi.
À titre individuel, moi, j'écoute pas les critiques, tu vois, genre, je suis...
Mais ça peut.
Tu vois, genre, je suis dans ce truc où ce qui va avoir une influence, c'est à quel point je vais entendre parler d'un truc et peut-être que je vais aller avoir la curiosité d'aller l'écouter, tu vois.
Mais il y a évidemment tout un public qui est aussi réfractaire aux médias spécialisés, aux médias traditionnels, aux papiers, etc. Ça, pas de souci. Ouais. Je trouve cependant, et c'est pas du tout pour te convaincre, je trouve cependant qu'il est important de continuer de la pédagogie, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux, peu importe, puisque aujourd'hui, nous avons accès à toute la bibliothèque musicale mondiale.
Ouais.
Donc, on a accès à toute la culture, contrairement à moi quand j'étais gosse. La seule différence, c'est que si un gosse, il connaît pas le nom d'Eminem ou de Led Zeppelin, jamais il ne pourra le taper sur une plateforme de streaming et le découvrir. Et ça me semble important de continuer
moi,
parfois
je
à faire des filiations.
Je serais content que ça existe. C'est juste que ça existe, mais je me sens assez peu concerné, quoi, tu vois. Mais pour les gens, c'est bien, tu vois. mais pour revenir sur le sujet d'avant, moi, c'était une question qu'on m'avait posée au moment d'une FAQ. On m'avait demandé, en gros, qu'est-ce que je pensais des journalistes, et ils me citaient en exemple Mehdi Maizi, où ils me disaient, en gros, ils critiquaient ce truc de... ils aiment tout. Tu vois, ils aiment tout, et c'est chiant, et en gros, ça devient une machine à promo, machin, etc. Et moi, ma position là-dessus, ça a toujours été de dire, mais en fait, je m'en fous de leur avis. Je m'en fous de savoir s'ils aiment bien ou pas. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la plus-value qu'ils vont apporter. C'est quand il va faire l'interview avec le type, qui va lui dire... ah oui, j'ai senti qu'il y avait cette influence-là. Et moi, du coup, ça va m'amener un petit peu de culture. Je vais me dire, ah oui, tiens, il a parlé de ce truc-là. C'est de le fait qu'il ait des affinités avec les artistes, ça va permettre potentiellement d'aller chercher des sujets un peu deep, des conversations un peu cool avec eux et tout, tu vois. Et au final, qu'il ait apprécié l'album ou pas, et que ils disent c'est pas ce que j'écoute le plus pour pas dire que c'est de la merde, je m'en fous, tu vois. Genre, c'est, pour moi, ça n'a pas d'intérêt parce que de toute façon, je vais l'écouter, je vais avoir mon propre avis, tu vois. Donc ça ne, je vois pas bien le. Enfin, si, je comprends l'intérêt pour la collectivité, mais à mon échelle, à moi, je vois pas bien l'intérêt d'avoir l'avis de quelqu'un sur un truc autre que juste, ben, c'est son avis. Donc, s'il aime bien, s'il aime pas, s'il a pas envie de le dire, machin, je m'en fous, c'est qu'est-ce que tu ramènes de plus, tu vois.
Ce qui est le plus important, c'est pas forcément l'avis, c'est de faire du name dropping aussi. Sinon, ouais. tu vois, il va y avoir aussi un travail de recherche, hein. Pas seulement un travail d'attente au bureau, d'avoir la pile de CD qui est quand même, moi, ma vie, elle est beaucoup plus en concert que sur mon bureau. Tu vois, je dois avoir, allez, 2 concerts minimum par semaine depuis 20 ans. C'est ça, mon vrai métier, moi.
Spectateur.
C'est ça. Non, mais parce qu'il y a des choses qui doivent pouvoir se ressentir en live. Il y a des choses dont il faut parler aussi avec les gens. Il y a des sensations qu'on ressent pas forcément sur le CD. Surtout si c'est la découverte, ces artistes n'ont peut-être pas assez d'argent pour investir dans un studio important.
Oui. Je réagissais à ce que tu disais, Michel, sur, tu prenais l'exemple de Mehdi Maizi. Bon, autre invitation officiellement lancée, si tu veux venir nous voir, Mehdi, c'est avec plaisir aussi.
Coucou Mehdi.
En plus, il est un peu copain avec Michel, alors on sait jamais.
C'est mon meilleur ami.
C'est la différence, c'est on peut considérer par exemple qu'un Mehdi, Elise, etc., mais ce qu'on peut pas remettre en cause, c'est le fait qu'il y a eu une authenticité dans la passion et l'amour, y compris des gens qui reçoivent, etc. Tu vois, et moi, j'ai aucun problème avec ça. Après, je peux aimer regarder en parallèle un Yérim qui va défoncer quelqu'un, parce que ça peut être pertinent aussi de défoncer quelqu'un parfois.
Et divertissant
en plus, absolument. Mais
sauf si ça devient un positionnement.
Oui, t'as raison. Après, c'est un peu le cas de Yérim, mais comme il est rigolo et ça reste souvent pertinent.
Moi, j'ai connu en sortie de projection presse, tel ou tel média qui disait d'accord, vous avez tous aimé, très bien, je vais donc dire que j'aime pas.
Ouais, oui, mais c'est vrai que ça peut être problématique. Mais à la limite, tous ces trucs me vont. Là où j'ai plus de mal, parce qu'on l'a pas évoqué, c'est par exemple les grandes messes télévisuelles, type Grand Journal à l'époque, ou aujourd'hui ça peut être celui où ils bouffent sur France 5, mince, je sais plus.
C'est à vous.
C'est à vous, absolument. Où là, en fait, ils reçoivent des gens qui sont issus de milieux extrêmement différents, variés, etc. Ils les reçoivent de la même manière en disant « vous êtes incroyables, c'est extrêmement aseptisé, etc. » Là, franchement, ça a que très, très peu d'intérêt. Ça transpire ni le réel, ni la passion. Non. Ni quoi que ce soit. Et là, ce dont on parlait, ça existe bien quand même aussi, tu vois, cette connivence, ce truc de marketing, de...
Mais c'est pas du journalisme, c'est de l'animation. Ah oui, animateur, journaliste, éditorialiste, c'est 3 choses différentes. Chroniqueur, c'est encore un autre métier. Ah oui, c'est encore quelque chose. Mais là, on est sur une cible qui veut pas forcément être heurtée. Et dont le name dropping seulement l'intéressera, dont la façon dont le corps va se mouvoir en fait de l'inviter est intéressant. Mais finalement, effectivement, c'est des temps de parole assez courts. Ça peut être plutôt fourre-tout. Parfois, il peut y avoir des moments justement non prévus, un peu de dérapage qui sont intéressants. Mais là, on n'est pas dans un exercice critique. On est dans un exercice de présentation, d'animation,
voire de promotion.
Exactement, mais voire de promotion, oui. Oui. Après, il peut y avoir un choix éditorial sur l'invité. Il peut, j'imagine, peut-être, j'espère, n'invite-t-il que peut-être des gens qu'ils aiment, ouais.
Bon, et je vous propose de terminer ce podcast avec une dernière partie pour parler un peu de la diversité en fait dans les médias musique. Est-ce que il y a de la place pour tous les genres? Est-ce qu'il y a pas parfois presque une forme de rapport, ouais, de domination, de trucs qui écrasent un peu le reste? Par exemple, Sam, est-ce que t'as l'impression que dans les médias, on peut franchement parler d'à peu près toutes les musiques? Est-ce que c'est très spécialisé?
Évidemment que non. Le métal est assez interdit de beaucoup de médias traditionnalistes. Regardez aux Victoires de la musique. Victoire de la musique, le hip-hop, le rap, pardon, est aux Victoires de la musique. Et le rock et le métal n'y est pas. Hein. Non, alors le rock a perdu effectivement un peu de sa superbe, mais...
Est-ce que derrière tout ça, En fait, à la base, je voulais parler, tu sais, des émissions télé où notamment il y a de la musique en live, etc. Et honnêtement, en France, on est à la ramasse par rapport à beaucoup de pays, notamment dans les pays anglo-saxons, où la présence de la musique live est ridicule dans la plupart des médias, en particulier un média de masse comme la télévision. Alors, et même sur Internet, franchement, alors qu'on a la possibilité de faire plus de choses, eh ben les Tiny Desk et compagnie, etc. C'est pas en France qu'on les fait, quoi. On n'a pas encore. Alors, il y a Arte Concert, il y a quelques trucs très très bien, mais il y a quand même, franchement, à mon avis, c'est le seul qu'on arrive à cité. Et en plus, quand regardes la liste d'invités, c'est problématique, Taratata aussi, en réalité, parce que c'est extrêmement fermé. C'est extrêmement fermé. C'est une belle émission, honnêtement, hein, mais c'est plus possible de voir toujours les mêmes gueules. Et
regardez, il y a Basique qui essaye qui est sur le service public et qui essaye de faire un mix entre les différents styles.
Il y a Lazerdisc.
Mais effectivement, c'est toujours moins que ce que fait la BBC. Ouais.
Mais il y a des trucs sur Internet, effectivement. Michel cite Lazerdisc, par exemple. Il y a quelques trucs qui sont. Mais est-ce que derrière tout ça, et pour reconnecter avec ce dont on parlait juste avant, il y a pas aussi un problème, non pas de métal en France, rap en France, mais de musique en France? Est-ce qu'on n'a pas un problème avec la musique? Est-ce qu'on n'a pas du mal à la valoriser, à la considérer comme de la belle culture, à lui laisser de la place, etc.?
Il y a eu des périodes, hein, si on prend... Il n'y a pas des chiffres d'audience pourtant si fou que ça, mais si on prend la période nulle part ailleurs, c'était un tremplin pour beaucoup de groupes, et ça c'était intéressant. Il y a eu aussi, dans une certaine mesure, sur M6, et à la fois des clips le soir, et à la fois une émission avec Charlie et Lulu qui essayait de valoriser le top 50. Oui, mais... De manière plus générale, en fait, je ne sais pas si c'est dû à la France, mais c'est la difficulté aussi à filmer la musique, à la rendre super intéressante. On l'a vu là, on a eu plein de streams pendant le confinement, on s'est tous excités dessus pendant quelques semaines, et puis après, il y a quelque chose de redondant, il y a quelque chose que on n'arrive pas à ressentir les émotions, je ne sais pas, en live.
C'est à moitié vrai, ça reste une dynamique, le live stream, les chiffres sont très bons. Hein.
Bien sûr, mais moi, ça m'intéresse plus. Il y a quelque chose de redondant dans l'exercice. J'ai toujours l'impression que c'est le même live stream, même s'il y a eu des très jolis essais de la part de Damon Albarn, de la part de Korn, qui ont essayé, voilà, où on pouvait choisir soit sa caméra, soit c'était une ambiance un peu différente. Moi, je me suis un peu lassé de tout ça. Et quand je regarde ces émissions, il y a rien de véritablement neuf. Je trouve que l'approche, en tout cas, de MTV Unplugged, il y a quelques années, hein, était un peu, voilà, essayer de proposer quelque chose de différent, même si c'était un concept qui existait par ailleurs, mais plus confidentiel. Voilà, là, on était sur une prise de risque, sur de l'inédit. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça. Il n'y a plus forcément de l'inédit. Alors, c'est ce qu'essaye de faire Taratata, parfois avec ses duos. Mais effectivement, je suis moins en accord avec la programmation, mais bon, ça a le mérite d'exister. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prévoir de plus?
Nous, moi, j'ai des trucs dans les tuyaux, hein, Zizi Kaka Mixtape volume 2. Ça va être très, très intense ce qu'on va proposer à l'univers.
La musique live aussi?
Oh, des choses. Il va se passer des choses. Je ne veux pas en dire trop. On va déjà sortir le volume 1. On arrive vers la fin. Mais après, nous, on a des idées. Si ça se passe bien avec le volume 1, on veut essayer de faire des choses un peu, de proposer des choses.
Après, me vient une autre stat en tête, c'est que certes, nous avons peut-être moins de d'émissions, en tout cas liées à la musique, mais peut-être le savez-vous, un Américain moyen fait un festival par an en moyenne, et un Français en fait 3 par an.
Attention, l'ensemble de la population, non, un Français fait pas 3 festivals par an sur l'ensemble de la population.
C'est une moyenne. Si. Wow. Attention. Je ne dis pas de musique, je dis de manière générale, théâtre, etc. Il y a toute une culture de ça, et c'est pour ça que un festival comme Coachella est beaucoup plus cher, puisque c'est un peu la dépense de l'année, et que nous, finalement, nous mettons exactement cette dépense, mais en 3 événements.
Ouais, et faut dire aussi, parce que c'est l'un des rares trucs où on est un peu fort, les festivals, où il y a un peu de maillage, l'été, la saison estivale, on sait que c'est un truc assez fort. Mais franchement.
Sur un petit territoire.
Sur un petit territoire. Mais honnêtement, la France, on dit souvent que dans les pays anglo-saxons, tu vas dans n'importe quel petit, enfin, dans beaucoup de villes, en tout cas dans un petit bar, et t'auras plein de gens qui jouent de la musique. Dans le quotidien, on n'a pas cet aspect-là en France.
C'est vrai. On est moins irlandais.
Ouais. Il y a ce truc de, mais c'est un rapport à la culture de manière générale, tu le sais bien, et.
Après, ça dépend.
On n'est pas un pays de musique populaire. D'ailleurs, on n'est pas un pays de culture populaire, d'ailleurs, je trouve, franchement. Après, ça, c'est ma vision. Hein. On est un pays intellectuel, d'élitisme, et qui a un rapport rapport à la culture très marqué par tout ça, je crois, franchement. Et...
C'est possible, c'est aussi, ça dépend d'où on vient. Hein. Vous savez, moi, entre Nantes et Rennes, il y a une surproduction musicale et j'ai eu l'impression d'être toujours baigné dedans, effectivement, qui existe parfois moins dans d'autres villes. Hein. Donc,
Et je parle beaucoup aussi, tu sais, en termes de politique publique, etc. Voilà, tu vois, c'est ça.
Et Nantes et Rennes, on fait beaucoup en politique publique, effectivement, là-dessus, ouais. Ouais, mais c'est effectivement pas majoritaire. Je croyais que c'était un cas majoritaire avant de travailler dans d'autres villes.
Bon, c'est très intéressant tout ça. On aurait pu faire, franchement, avec tous les thèmes qu'on abordait, 4 émissions différentes. C'est toujours pareil.
C'est toujours comme ça.
C'est toujours comme ça. On essaie de parler de musique naturellement avec un thème de base, évidemment. Puis ensuite, c'est la discussion qui nous amène. Tout ça n'est que des regards, d'ailleurs. C'est le regard de Sam. C'est pas le regard d'absolument tous les journalistes, certainement. Mais en tout cas, quelqu'un qu'on estime et qu'on trouve compétent. Donc,
n'hésitez pas à nous insulter quand même en commentaire, comme si ce qu'on disait était important.
Tu reviendras à ça, mais on dit ça à chacun de nos invités, c'est terrible, ça veut dire qu'on a plein de choses à dire. Hein, mais
on va faire comme Taratata, on va inviter tout le temps les mêmes gars.
Mais grave. Non, après ça deviendra triste, mais tu vois, deux fois, à la limite, ça passe encore deux fois. Comme ça.
Oui, et après j'ai peut-être dit des bêtises. Hein.
Mais certainement, et on te le reprochera, Sam, dans les commentaires.
Oui, ouais.
Les gars, petit tour quand même, pour retrouver ton travail, Sam, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui nous regardent
Chaîne YouTube, une chanson d'édition. Voilà, chaque semaine, j'essaie de décrypter un standard des musiques amplifiées, voilà, des années 60 à aujourd'hui. Et puis, bien de temps en temps, c'est même l'artiste qui explique lui-même l'histoire de sa chanson.
Tu sais que je suis jaloux de ce format parce que parfois, dans mes propres formats, j'ai envie de parler un peu de l'histoire d'une chanson. Et à chaque fois, je suis obligé de regarder avant si tu l'as pas traité, quoi. Parce que...
C'est bien. Non, mais après, on a tous une façon de traiter. Bien sûr. Différemment l'histoire de la chanson, il n'y a rien d'exceptionnel à traiter l'histoire d'une chanson. Il y a des très grandes personnes comme Rebecca Manzoni, comme Francis Légut, comme Manœuvre, etc., qu'on fait tout ce travail-là, comme Gilles Verland, par exemple, en Belgique. C'est juste la façon de le raconter, ou son propre vécu, parfois avec l'artiste, justement, voilà, quoi, pour pouvoir expliquer les mêmes choses. Je vous le dis, les bruits sont accessibles à tout le monde, c'est seulement ce que nous en faisons chacun.
Il est inarrêtable, hein. Vous voyez le journaliste, comme ça, je lui dis juste fais ta promo et là on repart sur un débat, quoi. C'est... Voilà. Michel, toi, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant en ce moment?
Rien du tout, ça saoule déjà les gens, ils voient ma gueule sur TikTok et sur Twitter, c'est bon.
Pas de promo.
Zizi Kaka Mixtape, on arrive.
Zizi Kaka Mixtape très bientôt. Moi je fais pas de promo parce que ça vient de sonner chez moi. Il faut que j'aille ouvrir la porte. C'est la fin. Merci Thoman quand même. Voilà. S.O. Thoman de nous
Merci
suivre,
Thoman.
Etc. Des bisous à tous. On revient le plus bisous. Vite possible et puis de plus en plus régulièrement. Michel, on va quand même essayer de faire ça, d'être là un peu plus sérieusement.
Oui. Et de dormir.
À bientôt. Et de dormir. Merci encore Sam d'être venu. Ciao.
Salut.